Bonjour à tous, bienvenue, on va commencer. Donc moi je suis psychologue, je travaille à l'unité approche, unité jeunes et addiction et addiction comportementale au niveau du XAPA. Alors c'est encore des sigles, le XAPA, centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. On est juste de l'autre côté de la rue, au 5 rue Jean Jaurès. Donc on est au niveau du XAPA à l'initiative de cette conférence en partenariat avec l'espace Mendès France qu'on remercie. Pour l'accueil. Donc voilà, simplement pour vous dire qu'on a une consultation donc, qui est mise en place depuis un an à peu près maintenant, où on reçoit des jeunes âgés de 15 à 25 ans, qu'il s'agisse d'une consultation pour avoir des informations, pour échanger autour de ce qu'il en est de l'addiction, autour des conduites, des comportements en tout cas qui peuvent poser questions, poser problèmes, que ce soit pour les parents ou pour les jeunes. Donc voilà, autour de 15-25 ans, on est deux psychologues. J'ai ma collègue Mathilde Seguin à côté. Donc voilà pour ce qu'on peut en dire à peu près en deux mots de cette consultation-là. La conférence, on souhaitait que ce soit un temps d'échange, donc avec une participation active de votre part et de notre part. Donc voilà, un temps d'échange sur cette question-là des écrans. C'est pourquoi nous avons demandé à Madame Elisabeth Rosset, qui travaille à l'hôpital Marmontant, de venir nous parler un petit peu de cette question-là. Donc voilà, je vais vous laisser la parole.
Merci pour cette présentation, merci pour cette invitation. Donc, effectivement, je travaille à l'hôpital Marmottan. Alors, peut-être que pour certains, l'hôpital Marmottan, ça veut dire quelque chose. Mais je pense que je vais un tout petit peu préciser quel est ce lieu. Ce lieu, il ressemble beaucoup, en fait, à ce que Aline a décrit, c'est-à-dire que c'est un centre de soins, d'accompagnement et de prévention des addictions. Enfin, moi, je les appelle comme ça. Voilà. Il se trouve à Paris et il a été fondé en fait par le professeur Claude Olivenstein, qui est l'un des pionniers dans la réflexion sur la prise en charge des personnes toxicomanes. Alors comment on s'est retrouvé à recevoir des joueurs de jeux vidéo à Marmottan, puisqu'on était surtout repéré comme étant un lieu pour les toxicomanes? Eh bien, sur un grand malentendu. Ça commence au début des années 2000. Et au début des années 2000, il y a un nouveau chef de service, il s'appelle le docteur Marc Valeur, et il s'intéresse beaucoup aux joueurs de jeux de hasard et d'argent, parce que, vous le savez peut-être, mais jouer aux jeux de hasard et d'argent comporte des risques, et certains, en fait, s'engagent dans une conduite addictive à l'égard de ces jeux de hasard et d'argent. Alors, parce qu'on recevait des joueurs de jeux de hasard et d'argent, ce qui n'était pas le cas ailleurs, hein, il faut savoir que cette problématique a mis du temps à être reconnue comme étant une pathologie, donc une maladie par les pouvoirs publics. Comme on était parmi les pionniers à recevoir des joueurs de jeux de hasard et d'argent, eh bien, au début des années 2000, on a commencé à recevoir des appels de joueurs qui nous disaient « Moi aussi, je suis joueur. Moi aussi, je m'isole. Moi aussi, je fais plus que ça, jouer. Mais mon jeu, c'est pas un jeu de hasard et d'argent. Mon jeu, c'est un jeu vidéo. » Est-ce que vous acceptez de me recevoir ? Donc c'est un peu comme ça qu'on a commencé à recevoir des joueurs de jeux vidéo à Marmottan, donc plutôt temple de la toxicomanie, on va dire. Et donc ces joueurs de jeux vidéo, ils sont venus au début peu nombreux. Par contre, ceux qui sont venus nombreux dès le début, c'est les parents. Et c'est pour ça qu'il y a une seconde conférence aujourd'hui qui est plus adressée aux adultes et aux parents qui portent sur le même sujet. Et depuis donc une quinzaine d'années, moi, je travaille à Marmottan et je reçois des joueurs de jeux vidéo et leurs parents. La présentation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est surtout l'occasion d'un échange avec vous. Donc même au décours de mon exposé, si vous avez envie d'intervenir, si vous avez une question, vous n'hésitez pas. On peut interrompre et échanger, puis continuer l'exposé. Voilà. Faut-il avoir peur des écrans ? C'est une manière de se questionner un peu sur ces usages qui sont relativement nouveaux dans nos sociétés. Les écrans, ça date du début du XXe siècle. C'est très récent comme invention. Mais c'est surtout avec l'arrivée d'Internet, particulièrement. Internet qui est une nouvelle technologie, pas technique, mais nouvelle technologie d'information et de la communication. C'est surtout avec Internet qu'on s'est questionné de manière passionnelle à propos de ces écrans. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce mode de communication avec Internet ? Trois caractéristiques. L'interactivité, ça veut dire qu'on échange tout de suite et sur le moment, on est en interaction. L'instantanéité, alors ça fait entrer la notion temporelle, c'est immédiat. Là, à nouveau, je vais réemployer le mot tout de suite. C'est tout de suite qu'on échange. Et l'ubiquité, alors l'ubiquité, j'ai pas trouvé d'autres termes, mais l'ubiquité, c'était un terme plutôt emprunté à la littérature. Et c'est cette idée d'être dans deux lieux à la fois. Et effectivement, avec Internet, on a cette capacité d'être dans deux lieux à la fois. Je suis au fond de ma chambre, face à mon écran d'ordinateur, et en même temps, je suis dans un jeu vidéo passionnant, dans une arène de combat, je suis en train d'affronter les plus gros boss du jeu, et donc je me retrouve en quelque sorte, dans mon vécu en tous les cas, dans deux lieux à la fois. Ce sont les caractéristiques de la communication avec Internet, bien au-delà des jeux vidéo, mais voici les caractéristiques de ce mode de communication. Donc ce que ça remet en question, ce sont nos repères habituels, spatio-temporels. C'est-à-dire que si je peux communiquer aussi vite, être dans deux lieux à la fois, c'est que ça modifie mon rapport au temps et à l'espace. Et on a à construire de nouveaux repères dans ce monde-là. Et puis Internet, le potentiel d'Internet, c'est son accessibilité, 24 heures sur 24. Je n'ai même pas besoin de sortir de chez moi, et ça, c'est un des aspects qui fait que c'est particulièrement attractif. Si je devais me déplacer pour aller jouer à un jeu vidéo, peut-être que j'aurais plus de difficultés à m'engager dans ce jeu. L'anonymat, je peux emprunter une autre identité sur Internet. Personne ne peut me découvrir. Je suis protégée par cet écran. Et la désinhibition. La désinhibition, ça veut dire que, justement, sans doute parce que je suis protégée par cet écran, eh bien, je vais oser faire plus de choses que ce que je n'oserais le faire en face à face, IRL, comme on dit, in real life, c'est-à-dire dans la vraie vie. Sans doute que quand je me retrouve face à quelqu'un de chair et d'os, eh bien, il y a plus de choses que je vais m'interdire que lorsque je suis derrière cet écran qui me protège. Et là, je vais peut-être oser plus dire des choses à la personne parce qu'il y a cet écran. Alors, quels sont les éléments de cette forme de communication ? Je prends un peu de temps comme ça, un peu pour poser le décor. N'hésitez pas à m'interrompre. Les écrans. Les écrans, je le disais tout à l'heure, c'est une invention tout à fait récente. Le premier écran, c'est l'écran de cinéma et il date du début du XXe siècle. Et il faut savoir que dès l'arrivée de l'écran du cinéma, eh bien, il y a eu des débats, des réflexions, des gens tout à fait enthousiastes par rapport à cette nouvelle invention qu'était le cinéma et des gens aussi un peu inquiets qui se demandaient ce qu'allaient faire des personnes en pleine journée, pourquoi est-ce qu'ils allaient s'enfermer dans des salles noires, obscures, à quoi allaient-ils qu'est-ce qu'ils allaient faire dans ces salles obscures et noires. Il y avait déjà des questionnements. Ensuite, le second écran qui a révolutionné un peu notre rapport aux écrans, c'est l'écran de télévision. Chronologiquement, il arrive par la suite et il arrive directement dans les foyers. Cette fois-ci, je n'ai plus à me déplacer pour aller voir un écran, comme au cinéma. Cette fois-ci, l'écran, il est à la maison, parfois au milieu de la famille. Et puis, on est arrivé à la fin du XXe siècle à cet écran qui nous fait rêver et qui est un écran donc, qui permet de communiquer avec le monde entier, qui est celui d'Internet. Alors, ces écrans, on peut dire que ce sont aussi des outils de captation de l'attention. Ce qu'on a remarqué, c'est que ces écrans, ils fascinent. ces écrans, ils fabriquent un effet bien particulier, un effet d'hypnose. C'est ce qu'on appelle l'effet scintillant. C'est un peu comme quand on regarde un feu de bois. On peut regarder les flammes du feu de bois pendant des heures parce que ça crée une attraction sur notre esprit et on peut rester comme ça, là, regarder très longtemps un feu de bois. Eh bien, les écrans, ça fonctionne pareil. D'ailleurs, dans les conférences, on utilise de plus en plus les PowerPoint parce que c'est formidable. Tout le monde regarde le PowerPoint, tout le monde est concentré. Et du coup, ben, y a une plus grande concentration, il y a un plus grand silence dans la salle. Et ça marche. Et ouais. Ce qu'on sait aussi de ces écrans, c'est qu'on peut être avec ces écrans soit dans une attention superficielle, soit dans une attention profonde. Or, la majorité du temps, cela dépend du contenu hein, de notre écran. Or, la très grande majorité du temps, quand on utilise des écrans, on est dans une attention superficielle. C'est-à-dire que, je ne sais pas pour vous, mais moi j'arrive à regarder la télé et faire une autre activité en même temps. Mais sans doute pour vous aussi, vous arrivez à faire ça. Parce que cet écran, surtout l'écran de télé, il nécessite assez peu d'attention. Il ne va pas mobiliser beaucoup votre cerveau, votre esprit. Donc vous pouvez avoir une autre activité en parallèle et c'est souvent ce qu'on fait. Même je constate que la plus jeune génération arrive à cumuler comme ça, même plus que deux activités d'écran, la télé, l'ordinateur, le téléphone, et arrive à switcher d'un écran à l'autre, ce qui est une capacité que je ne connaissais pas avant. Or, ce qu'on peut leur reprocher à ce sujet, justement, c'est que pour les apprentissages, alors là, je vais plus parler des apprentissages scolaires, on a besoin d'une attention profonde, de développer cette capacité à se concentrer sur plus de temps. Et il est vrai que les écrans, actuellement, avec les contenus qui sont diffusés, eh bien, ils font plus appel à une attention superficielle que profonde. Donc, à nous de faire attention, une fois de plus, à l'usage de ces écrans. Autre élément de cette forme de communication, ce sont les images. Pareil, les images, c'est assez nouveau, somme toute. Et alors là, on est arrivé dans la société de l'image, la société des images. Or, une image, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui s'impose à nous. La seule manière d'éviter une image, c'est de fermer les yeux. Alors, combien de temps on peut fermer les yeux ? Donc, c'est quelque chose qui s'impose à nous et qui nous fait oublier qu'il y a un cadrage et qui nous montre que ce qu'il a enfin une image ne nous montre que ce qu'elle a envie de nous montrer. Ça veut dire que quand je regarde une photo, je ne vois pas ce qu'il y a autour de la photo. C'est peut-être une mise en scène. On veut peut-être me faire croire quelque chose à partir de cette photo. Mais nous, dans notre esprit d'humain, on a l'impression que c'est la vérité, cette image. Alors que, bien souvent, il faut savoir prendre un peu de recul par rapport à ces images. Tout ça dans une société de consommation où on assiste à une multiplication des écrans. Alors, tout à l'heure, on parlait des différents types d'écrans, hein, le cinéma, la télévision, l'ordinateur, le téléphone portable. L'écran, il est dans votre poche. À Paris, par exemple, ville où je vis, dans le métro, vous avez des écrans de publicité, des écrans d'information. Et il y a un ensemble comme ça de flux d'informations et d'écrans autour de soi qui se sont développés de manière très importante ces derniers temps. Alors, comment on fait avec toutes ces informations et comment est-ce qu'on se débrouille là-dedans ? C'est un peu ça la question. Est-ce que l'addiction, et je vais venir à essayer de définir ce terme avec vous, est-ce que l'addiction serait une limite, c'est-à-dire comme ça, comme une maladie, justement, des gens qui consomment trop d'écrans, par exemple, et qui feraient un peu limite dans cette société où on incite plutôt la population à consommer. C'est une réflexion plus large. Alors, l'addiction, qu'est-ce que c'est ? Moi, je relève trois éléments. Trois éléments à l'addiction. Qu'est-ce que c'est qu'une addiction ? Cette définition, elle nous est donnée par un psychiatre qui s'appelle Goodman. Vous n'êtes pas obligé de le retenir. Ce qui est important, c'est qu'il définit l'addiction avec trois éléments. Il dit c'est l'adoption d'un comportement pour obtenir du plaisir. Alors, des plaisirs, il en existe plein de différents. On peut avoir du plaisir en étant puissant, en étant reconnu. On peut obtenir du plaisir parce qu'on a une place, parce qu'on est au-dessus des lois, parce qu'on est différent, parce qu'on est déconnecté. On peut obtenir du plaisir en échappant aux contraintes de la réalité, etc., etc. Il y a plein de plaisirs différents. Et ou de soulager d'un malaise intérieur. Ça, c'est un des premiers aspects de ce que c'est qu'une addiction. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'addiction. Deuxième élément, c'est l'apparition de conséquences négatives. C'est-à-dire que très souvent, la personne qui s'est engagée dans un comportement addictif va être obligée de répéter ce comportement pour obtenir le plaisir qu'il a obtenu avec cette activité. Et à force de répéter cette activité, apparaissent des conséquences négatives. Typiquement, avec les jeux vidéo, ce qui se passe, c'est que les gens se centrent sur cette activité, délaissent les autres activités qu'ils avaient auparavant et finalement ne font plus que ça, plus que jouer. Et donc, ça amène à un certain isolement. Si je ne vais plus dans les activités que je menais avant, ben je me détache des gens que je connaissais et je m'isole. Donc, des conséquences négatives qu'on retrouve d'ailleurs dans la très grande majorité des addictions, c'est le dérèglement du biorhythme, c'est-à-dire souvent les gens se décalent, ils vivent plus la nuit que le jour, par exemple. Ils vont manger plutôt un repas correct par jour et puis peut-être qu'il va y avoir des grignotages tout au long de la journée, par exemple. L'isolement social, donc on va petit à petit perdre des relations sociales, tout simplement parce qu'on ne les entretient pas ou ne les entretient plus. Et il y a des atteintes au corps, c'est-à-dire que pour certains, s'immobiliser par exemple devant un écran 12 heures par jour, bon, ça ne fait pas du bien au corps. C'est une obligation d'être immobile qui, au bout d'un moment, va peser sur notre corps qui a besoin d'être en mouvement. C'est un exemple. Par exemple aussi, il y a des gens qui se sous-alimentent ou qui se suralimentent. Quand ils sont aux prises avec une conduite addictive. Enfin, le troisième élément d'une addiction, c'est la perte de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation du comportement et une incapacité à arrêter seule, même si la personne souhaite réduire. Alors, ce dernier élément, il est très important parce que c'est celui qui va légitimer nos interventions à nous, soignants. Puisque c'est parce que la personne se sent en souffrance et qu'elle se dit « j'arrive pas à arrêter ce comportement » qu'elle va venir demander de l'aide. Hein, et que sans cette demande d'aide, ben, on ne commence rien. Donc c'est ce troisième élément, il est très important donc, pour expliquer notre intervention, mais aussi pour distinguer une addiction de d'autres comportements que parfois on appelle addiction, mais qui n'en sont pas. Je vais donner un exemple simple, c'est « je suis addict au chocolat ». Alors oui, moi aussi, comme vous, j'aime beaucoup le chocolat, et je suis capable d'en manger tous les jours. Est-ce que c'est une addiction ? Ben oui, pourquoi ?
Ouais, parce que je suis pas sûre qu'au fond ils nous entendent.
Ah, j'adore ça. Oh, il marche pas. C'est décevant.
Allô ?
Pourtant, ça fait le point rouge. Sinon, moi, je donne le mien. Hein.
Je peux donner celui-là aussi.
Tiens, essaye avec ça.
C'est portable.
Voilà.
Oui, on peut être addict au chocolat parce que c'est comme les jeux vidéo. C'est je sais pas, moi, je peux comment expliquer ça. Si la personne n'a pas, par exemple, de jeux vidéo chez elle, mais qu'elle a du chocolat à la place... et qu'elle a envie de jouer, et qu'elle ne peut pas jouer, justement, elle va s'en prendre aux aliments. Je sais pas. Non, aux aliments.
Ouais, aux aliments.
Au chocolat.
Voilà. Là, tu parles de substitution, c'est-à-dire, on se met dans la situation de quelqu'un qui serait un très grand joueur de jeux vidéo, ou une très grande joueuse. Il n'y a pas de raison de dire toujours que c'est des garçons, même si souvent c'est des garçons. Donc, qui aurait terriblement envie de jouer, qui est chez soi, et imaginons que ce jour-là, il n'y a pas de connexion Internet. C'est ballot, hein ? C'est ballot. Et donc, à ce moment-là, toi, tu te dis, pour compenser de ce manque...
Voilà ce que pourrait faire le joueur ou la joueuse, c'est-à-dire se jeter sur le chocolat et se baffrer de chocolat pour compenser le manque de jeux vidéo. C'est ça ? D'accord. Donc là, ça serait plus un produit de substitution, en quelque sorte.
Elle se venge vu qu'il n'y a pas de connexion Internet. Je ne sais pas.
Pourquoi pas ? Il y a peut-être des joueurs, effectivement, qui compensent sur le chocolat. Alors, avec le chocolat, même si c'est une substance qu'on adore et qu'on peut consommer effectivement tous les jours, et à outrance, hein, c'est-à-dire en se disant « Ah, j'en mange juste deux carreaux ce soir, je ne mangerai pas la plaque entière, etc. » Et puis finalement, 2, 4, 6, 8, bon, j'ai mangé les 200 grammes de chocolat. Même si j'ai été donc plus loin et que ça ressemble à une addiction, néanmoins, ce n'est pas une addiction. Pourquoi ? Parce que le jour où véritablement j'en ai marre de manger du chocolat et de manger une plaque de chocolat tous les soirs, eh bien je décide de ne plus en acheter. Et à partir du moment où j'en ai plus dans mon placard, mettons à 21h, quand l'envie de chocolat pointe son nez, j'ouvre mon placard, je ne trouve pas de chocolat, ça me frustre, ça dure 5 minutes et je passe à autre chose. C'est en ça que ce n'est pas une addiction. Parce que quand on est aux prises avec un processus addictif, je suis la joueuse de jeux vidéo, j'adore ça. Ce jour-là, il n'y a pas Internet chez moi. C'est peut-être pas du chocolat que je vais chercher dans les placards. C'est peut-être plutôt trouver une salle ou un cybercafé ou un copain qui puisse m'accueillir pour pouvoir mener le combat que j'ai à mener ce jour-là, pour pouvoir vivre l'aventure que j'avais envie de vivre dans mon jeu ce jour-là. C'est bien ça la différence entre une addiction et on va dire un abus ou une consommation excessive d'un produit ou d'un autre. Il y a vraiment cette incapacité à s'arrêter. C'est-à-dire que les personnes que nous voyons dans nos centres, c'est des gens vraiment, ils se disent, j'aimerais bien faire autrement. Le matin, ils se disent ça peut-être. Ils se disent en se levant, ah oui, aujourd'hui, je ne vais pas fumer de pétard. Ah oui, aujourd'hui, je ne vais pas manger. Je ne vais pas jouer aux jeux vidéo, etc. Mais au décours de la journée, eh bien, ils n'arrivent pas à résister à la tentation et ils vont quand même aller fumer un pétard ou ils vont quand même aller boire ou ils vont quand même se retrouver devant leur écran de jeux vidéo pour jouer. Ça va ? C'est assez clair. Alors, bon, je le fais hyper rapide, mais très souvent, en fait, quand on parle d'addiction, on dit, et pour essayer d'expliquer que c'est une problématique extrêmement complexe, qu'on ne peut pas se dire, tiens, celui-ci, il est devenu joueur de jeux vidéo excessif parce que le jeu vidéo lui-même a des caractéristiques qui fait que ça engloutit le joueur. On ne peut pas diaboliser uniquement le jeu pour expliquer qu'une personne s'est engagée dans une conduite addictive avec un comportement. Donc, pour expliquer cette complexité, on s'appuie souvent sur un modèle, j'en dis deux mots, c'est ce qu'on appelle le modèle trivarié. Ça veut dire que pour qu'il y ait une forme de dépendance pathologique, une addiction, il faut forcément qu'il y ait un produit particulier, un moment socioculturel, c'est-à-dire un moment dans l'existence de la personne et une personnalité particulière. Bon, j'en fais pas trop loin dessus. Plutôt comme ça. Comment peut-on devenir addict ? Si jamais on avait envie de se lancer dans une carrière d'addict, comment ça se passe ? Alors d'abord, il faut rencontrer. Il faut rencontrer une rencontre qui a souvent lieu à l'adolescence. Pourquoi à l'adolescence ? Parce que l'adolescence, c'est propice à la nouveauté, c'est propice à explorer, à découvrir. Et souvent, on découvre de multiples objets. Et pourquoi pas un objet qui deviendra un objet d'addiction ? Pourquoi pas ? Après la rencontre, il faut que s'installe le comportement. Alors très généralement, le comportement, il ne s'installe pas du jour au lendemain. comme me disent les joueurs de jeux vidéo, très souvent, ils me disent « Non, mais je me suis pas mis à passer 15 heures par jour devant mon PC comme ça. » C'est venu petit à petit. C'est venu parce qu'au début, j'étais intéressée par le jeu et j'avais envie d'y être bon. Alors du coup, j'ai passé un peu plus de temps pour voir comment fonctionnait ce jeu. Et j'ai compris certains trucs et ça m'a encouragée à y passer un peu plus de temps encore pour devenir plus performant. Et donc, c'est souvent en quelques mois qu'on passe de 2 heures de jeux vidéo, mettons, par jour à 14-15 heures pour certains. Les cas les plus excessifs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, dans le vécu de toute personne qui s'engage dans une conduite addictive, il y a un vécu très positif de cette rencontre avec ce comportement. Le jeu va leur apporter quelque chose d'extrêmement positif dans leur existence. Et donc, au tout début, au moment où va s'installer le comportement, il n'y a pas encore les conséquences négatives qui vont apparaître par la suite et qui vont aider la personne à remettre en cause ce comportement. Au début, tout est rose. Finalement, ça va mieux. Finalement, ce jeu vidéo, il me donne le piquant, le piment qui me manquait dans mon existence. Finalement, le jeu vidéo, il me permet de ne pas entendre que mes parents s'engueulent dans la pièce à côté. Donc, ça a quand même quelques avantages. Finalement, le jeu vidéo, il me permet d'oublier que mes résultats scolaires ont largement chuté cette année. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui vont faire que je me dis je suis mieux dans mon jeu vidéo que dans la réalité physique et matérielle. Donc je m'installe un peu dans ce comportement. C'est après qu'apparaissent les conséquences négatives dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le dérèglement du biorhythme, des problèmes avec le corps, etc. Et puis, si on veut devenir addict, il faut du temps, hein, quand même. C'est-à-dire, on ne devient pas addict en une année, il faut un peu plus de temps, puisqu'il faut répéter jusqu'à ce qu'on se retrouve dans un univers un peu limité, centré uniquement sur le comportement, par exemple, uniquement centré sur le comportement de jeu. Donc ça demande quand même beaucoup d'investissement de devenir un bon addict et pas mal de temps. Alors de quoi peut-on devenir addict ? Ah, on peut devenir addict de produits, de substances ayant certaines caractéristiques. Donc les drogues, l'alcool, le tabac, les médicaments. On peut et on devient surtout addict d'une expérience. Hein, la plupart du temps, c'est ce qui nous est rapporté. On est devenu... Si les gens s'engagent autant dans ce comportement, c'est que la première expérience a été comme un coup de foudre, on dit. C'est-à-dire extrêmement forte en intensité, que ça laisse une marque très positif pour le sujet, ou simplement, c'est un événement, le seul événement qui sort de l'ordinaire dans une existence extrêmement routinière. Ça, au moins, et ça, j'ai souvent entendu ça dans le discours des joueurs de jeux vidéo, au moins, dans le jeu, il y a une vie un peu classe, un peu fougueuse, avec des valeurs chevaleresques, etc., que je ne retrouve pas forcément dans la vraie vie. Donc une expérience. Et puis, on peut devenir addict de comportements spécifiques liés aux jeux de hasard et d'argent, liés aux jeux vidéo. Mais on peut aussi devenir addict au sport. Il y a aussi des gens qui souffrent de cette forme d'addiction. Aux achats compulsifs, on appelle ça. C'est plutôt une addiction féminine, ça. C'est plus pour les filles. C'est rare que les addictions soient plus féminines, hein, mais celle-ci en fait partie. Alors, jeux vidéo et addiction. Il faut savoir que à ce sujet, on a beaucoup de discours différents, que ces discours d'ailleurs ne se ressemblent pas. Il faut savoir que les médias, alors la télévision pendant toute une époque a soutenu un discours très négatif à l'égard des jeux vidéo, c'est sans doute lié à la perte d'audience hein, et d'audimat qu'ils avaient, puisque les plus jeunes préféraient passer du temps sur leur ordinateur à jouer à des jeux vidéo plutôt que de regarder la télé. Alors, bon, forcément. Les politiques aussi s'en sont un petit peu mêlées. Il y a même eu une tentative dans une loi de faire passer un amendement à propos des jeux vidéo, des jeux vidéo addictifs, justement. Les éditeurs des logiciels ludiques, alors eux, pour eux, c'est tout rose. Et eux, ils cherchent plutôt à savoir comment capter
leur public et même le retenir sur le jeu. Il y a des laboratoires, il y a des chercheurs hein, qui travaillent sur ces sujets de manière très importante. Donc les éditeurs de jeux ont aussi leur point de vue là-dessus. Les parents, eux, ils ont un discours beaucoup plus inquiet que les enfants, généralement, sur l'usage de ces jeux vidéo. Et c'est pour ça qu'on fait pas mal d'actions vers les parents à ce sujet. Est-ce qu'on peut parler d'addiction aux jeux vidéo ? C'est encore un débat ouvert. Pour l'instant, l'ensemble des experts qui réfléchissent à la question ne s'est pas du tout mis d'accord. Pour l'instant, c'est encore une interrogation. Notamment à cause de l'âge des gens, des joueurs. En général, les joueurs excessifs de jeux vidéo, ils ont entre 14 et 25 ans. Ça correspond à l'adolescence, hein. Ça correspond à ce moment de l'existence où on peut avoir comme ça des engagements passionnels dans une activité et puis du jour au lendemain changer d'activité et s'investir dans d'autres lieux, dans d'autres activités. On manque de recul aussi sur la question. Et puis il y a une question de fossé générationnel, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre ceux qui sont nés avec Internet et ceux qui ont vu se développer Internet. On n'a pas le même regard sur cet objet et sur les usages qu'on peut en faire. Alors, les jeux vidéo, ils sont à la croisée de trois mondes dont on a déjà parlé. Internet, puisque les jeux dont je vais vous parler sont des jeux qui se jouent en ligne, dans la majorité des cas. Le jeu, qui a ses propres caractéristiques, et les images. Ça donne le monde des jeux en réseau. Alors, tout de suite, d'emblée, je voulais vous dire que d'un point de vue clinique, c'est-à-dire, par exemple, là où je travaille, on reçoit à peu près 2000 personnes par an. Notre file active est de 2000 personnes environ par an. Environ 1000, la moitié, sont de nouvelles personnes. Et sur l'ensemble de ces 1000 personnes, il y en a 50 qui sont des joueurs de jeux vidéo. Ça veut dire que c'est une toute petite minorité. Les cas d'addiction aux jeux vidéo, si ça existe comme problématique, moi je vois des joueurs vraiment très, très empêtrés dans les jeux vidéo, donc j'aurais plutôt tendance à dire oui, ça existe. Si elles existent, elles sont très minoritaires. Par contre, des situations d'abus, ça il y en a énormément. Mais l'abus, c'est pas encore l'addiction. L'abus, c'est en dessous au niveau de la gravité du comportement. Alors là, c'est peut-être plus votre domaine, mais vous allez peut-être m'aider à intervenir peut-être un peu plus sur cette vignette-là, sur ce slide-là. Connaissez-vous les principales catégories de jeux en ligne ? Oui ? Non ? Ça vous parle ? Oui ? Les ? Alors, Bliss Brigade, je ne connais pas. En même temps, je ne suis pas pas la plus douée en jeux vidéo. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ?
Bah, c'est un jeu de FPS, multijoueur, où on joue sur Internet.
Ouais. Donc, voilà. Qui te plaît ?
Oui.
Ouais. Tu y passes beaucoup de temps ?
Bah, pas trop.
Pas trop. Qu'est-ce qui te plaît dans ces jeux-là ?
Bah, les armes.
Les armes. On peut te demander ton âge ?
12 ans.
12 ans. Alors, à 12 ans, on adore effectivement les jeux type FPS. C'est ce qu'on appelle les first person shooters. Ce sont des jeux de tir en vue subjective. On adore ce genre de jeu parce que ce sont des défouloirs. Hein, c'est-à-dire que, en gros, toutes les tensions que j'ai accumulées dans ma journée... je peux les mettre dans le jeu et ça me libère et ça me fait du bien. Ces jeux-là, je vais juste vous montrer un petit extrait. Typique. Ça ressemble à ça, ton jeu ?
Oui.
Ah, quand même. Ah, tout de même. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce type de jeu ? Donc, effectivement, on est dans ce qu'on appelle une vision subjective. On est en trois dimensions et on a le sentiment comme ça que le bras du joueur, notre bras d'ailleurs, est prolongé à l'intérieur de l'écran par une arme. Ces jeux-là, c'est plus des jeux de réflexe que de réflexion. Hein. C'est-à-dire que dans ces jeux-là, ce qui est important, c'est d'être très concentré, vraiment très concentré, pour être le plus rapide à tirer quand il y a un ennemi qui passe dans le viseur, en gros. Bon, ces jeux-là, ils ont gagné. Alors, les plus célèbres dans cette catégorie, c'est Counter-Strike, Call of Duty, évidemment. GTA, il est un petit peu différent. Alors, ces jeux-là, donc, c'est plus des jeux de réflexe que de réflexion, même s'ils ont gagné, en qualité, je dirais, à partir du moment où on a pu les jouer en réseau ou avec Internet. Parce qu'à partir du moment où on les joue en réseau ou avec Internet, on peut jouer à plusieurs. Ça fait entrer de la stratégie dans le jeu, ce qu'il n'y avait pas auparavant ou moins auparavant. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme type de dépendance qui peut se développer à l'égard de ces jeux. On parlait de la fonction défouloir. Ça fait du bien, ça permet de mettre hors de soi un certain nombre de tensions qu'on avait à l'intérieur de soi. Et il est vrai que ce genre de jeux, qui sont interdits aux moins de 16 ans, hein, enfin déconseillés, pardon, c'est pas le bon terme, c'est déconseillés aux moins de 16 ans, sont largement joués par les moins de 16 ans. C'est même les jeux que préfèrent les moins de 16 ans. Notamment parce que, sans doute, on peut le comprendre comme ça, c'est parce que, justement, les moins de 16 ans, ils sont très pris par le processus de l'adolescence et que ça leur fait du bien de décharger à l'extérieur toutes les tensions qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Alors, quel genre de dépendance peut se développer par rapport à ce genre de jeu ? Pour ceux qui jouent, qu'est-ce que vous avez comme effet quand vous jouez beaucoup à ce type de jeu ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? La violence, j'entends. Mais vous jouez, vous ? Ah non. Oui, ça, c'est ce qu'on voit à l'écran. Hein. C'est le côté, effectivement, violent. Mais finalement, ces jeux, ils ressemblent beaucoup à un autre jeu qu'on jouait autrefois plus dans les cafés, qui est le flipper. Hein ? Beaucoup moins violent dans sa forme, mais qui fonctionne de la même manière. Au flipper, on se concentre sur la bille. Et on se concentre sur la bille comme on se concentre sur le viseur, là, dans les FPS. Et on essaye d'être le plus rapide pour rattraper cette bille. Et quand on joue au flipper, on est tellement concentré, parce qu'on joue dans les cafés, on jouait, parce que ça a disparu, malheureusement. Mais on jouait dans les cafés et on était tellement concentré qu'on devenait presque la bille, qu'on n'entendait même pas ce qui se passait autour de soi. C'est ça qui était assez impressionnant. Ben, ça marche de la même manière, ces jeux-là. C'est-à-dire qu'ils nécessitent tellement de concentration qu'on en oublie tout ce qu'il y a autour de soi. On en oublie. Comment ? Vous, ça vous fait ça ? Ben oui, c'est ce qu'on appelle de la dépendance au vide. C'est-à-dire qu'on s'anesthésie en quelque sorte par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur. On vide la tête, on ne pense plus à tous ces problèmes, on ne pense plus qu'on s'est engueulé avec machin, on ne pense plus qu'on a des devoirs à faire et qu'on ne les a pas faits et qu'on se demande même si on va les faire à un moment donné. On ne pense plus aux différents conflits, on pense plus qu'au jeu. Et c'est sans doute pour ça qu'on en abuse parfois de ce genre de jeu, parce que ça permet d'oublier tout le reste de l'existence. Mais c'est pas pour ce genre de jeu que je reçois des joueurs de jeux vidéo excessifs ou addictifs. C'est pas pour les FPS.
Dans les FPS, la proportion des FPS entre les jeux avec armes par rapport aux autres, c'est important. Il y a d'autres jeux qui, où il n'y a pas la notion
aujourd'hui... La... C'est ça qui se vend, en fait. Alors, c'est pour ça qu'il y a une vraie nécessité aussi que tout le monde un peu se bouge et s'intéresse à ces jeux vidéo, puisque ça serait sympa que les éditeurs de ces logiciels ludiques nous proposent d'autres contenus que toujours des contenus où il s'agit de tuer son prochain. Ça serait sympa de proposer autre chose. Mais
il pourrait y avoir peut-être d'autres points positifs s'il y avait d'autres jeux de combat. C'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas peut-être oui. Tout est peut-être pas négatif. Quoi.
Mais il y a des points positifs à jouer.
Mais
ah non, mais il y a des points positifs à jouer de toute façon. Même dans ces jeux-là, c'est plutôt une bonne nouvelle en général. Quand, j'ai l'air de dire ça comme ça, mais qu'un adolescent s'adonne à ce type de jeu, c'est pas très étonnant, c'est même assez classique et c'est presque une étape maintenant devenue ordinaire pour la plupart des adolescents de passer par ce type de jeu qui sont extrêmement violents, qui déplaisent beaucoup aux parents, évidemment. Très généralement, si on écoute juste les joueurs, hein, sans regarder la partie, ils ne parlent plus qu'en onomatopée hein, face à ce jeu, donc c'est assez curieux pour les parents. Et il y a un nombre de gros mots qui sont émis pendant la partie qui fait que vraiment, vraiment, c'est désagréable, j'entends bien, pour les parents. Mais il faut savoir que c'est aussi une manière pour ces adolescents de s'affirmer, de déranger un peu leurs parents, oui, de les gêner, de les gratter, de les... voilà, et que ça a une vraie fonction, effectivement, au niveau exutoire, cathartique, hein, de pouvoir mettre hors de soi un certain nombre de tensions. Donc ça a beaucoup d'intérêt. Ces jeux-là, ils incitent aussi à se concentrer. Je le disais aussi, en réseau, il y a un aspect plus stratégique. Ils développent aussi des capacités. Ils ont des qualités. Ils ont des qualités. Alors, on aimerait bien, oui, que ça soit un petit peu moins orienté sur les armes et la violence, certes. Mais c'est ça qui est vendeur. Faites le même jeu où il s'agit d'envoyer des fleurs sur un maximum d'adversaires. Eh bien, je vous promets que ça ne va pas se vendre.
Sans aller jusqu'aux fleurs, il y aurait peut-être un intermédiaire entre les fleurs et les armes.
Oui, mais c'est ce qui se vend.
Ouais,
non, mais c'est terrible.
Non, mais
il y en a sans doute d'autres. Ah ben non.
C'est sûr qu'au niveau des ventes, c'est pas comparable. Voilà, mais au niveau commercial, ça se vend bien. Et je pense à Candy Crush.
Ah ben, ça... Ah ben, on va en parler alors. Allons-y, Candy Crush.
Et vous disiez tout à l'heure que
les free-to-pay.
Les free-to-play, oui.
Ah, pardon, je croyais que c'était pour payer,
c'est
que c'était libre.
Au départ, effectivement, gratuit. Mais au bout d'un moment, il faut payer pour continuer à jouer, etc.
Voilà.
Ou avoir des bonus. En fait, ça marche sur le système d'effort-récompense. Mais on peut squeezer l'effort en payant.
C'est ça.
Et oui, vous disiez tout à l'heure, les parents qui sont très inquiets. Au sujet des jeux vidéo, de la consommation des jeux vidéo de leurs gamins, mais aussi les parents qui initient leurs gamins en jeux vidéo. Et cette nouvelle génération à laquelle on appartient, justement, voit ça finalement comme un prolongement de leur expérience et ne voit pas nécessairement, ça dépend des parents, hein, mais l'utilisation du jeu vidéo comme quelque chose de mauvais.
Mais moi non plus, je ne vois pas l'utilisation du jeu vidéo comme quelque chose
oui,
de
sûr.
Mauvais. Je constate simplement qu'il y a des gens qui en font un usage problématique pour eux-mêmes. Mmh. Donc, ce n'est pas la même position, forcément. Et je sais bien que ma vision est très, très minoritaire. Je suis d'accord avec vous. Heureusement, depuis quelques années, mais c'est assez récent, les éditeurs ont décidé de développer des jeux avec des contenus différents, plus intéressants, plus coopératifs aussi. Parce que c'est quand même souvent des jeux où on élimine son voisin. Hein. Mais même si vous me dites que c'est des succès commerciaux, les grands succès commerciaux, c'est ceux-là. Hein. C'est ceux-là, et c'est ceux-là qui touchent le
oui,
plus
aujourd'hui. Et
la
d'ailleurs,
population.
Ça pose question. Comment ça se fait que ce soit ces jeux qui fonctionnent? Alors que à mon époque, lorsque j'étais gamin, c'était Mario. Mmh. Mario, on écrasait des champignons, effectivement, il y avait certaines formes de violence, mais bon, ça c'est un petit peu tiré
par les
cheveux.
Mais Mario, ça fonctionne encore. Hein.
Mais Mario, ça fonctionne encore. Donc justement, vous êtes d'accord avec moi. Ce n'est pas les seuls jeux. Enfin, il n'y a pas nécessairement toujours de la violence dans les jeux vidéo.
Il n'y a pas nécessairement toujours de la violence dans les jeux vidéo, mais dans l'ensemble des jeux en général, au-delà des jeux vidéo, la question du combat et de l'affrontement est un des ingrédients, on va dire, les plus utilisés. Hein. Les jeux, c'est souvent un affrontement. C'est pensé comme ça, de toute façon. Donc, effectivement, on retrouve souvent des combats.
Bah, dès lors qu'il y a la compétition, ouais, c'est souvent le cas. Ouais.
Il y a aussi les courses automobiles. Ça, c'est autre chose. Ouais.
Merci.
Ça, c'est Mario Kart. Le seul jeu auquel je joue. Alors, mais vous avez raison aussi que ce n'est pas exhaustif hein, dans ce monde des jeux vidéo, puisque moi, je le répète, j'ai une position bien particulière là-dedans. J'essaye de vous expliquer quelles pourraient être les dépendances induites par ce type de jeu, et c'est pour certains genres de jeux. Pardon, allez-y.
Pardon, merci. Ben, moi, je connais mes deux petits cousins, là. Ils sont 7-8 ans et ils jouent, les parents les sont initiés à avoir un téléphone portable, aussi une tablette. Et comme c'était à mon oncle, je vois pas l'intérêt parce que moi, à mon âge, c'était interdit d'en avoir un jusqu'à 18 ans. Mmh. Et je leur ai dit, ça n'a aucune utilité à leur âge parce qu'ils ne vont plus jouer et tout ça. Et ça va jouer sur leur façon d'être. Et tant le coup, c'est ce que je me rends compte au jour d'aujourd'hui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont plus aucune parole avec la famille s'ils sont toute la journée sur leur tablette et leur téléphone portable. Et les parents, ils veulent rien comprendre. Voilà.
Les parents, ils sont eux aussi devant un écran pour communiquer avec leurs enfants?
Non, ils arrivent de temps en temps à parler avec leurs enfants, mais c'est rare. C'est rare. Donc, voilà.
Là, ce que vous évoquez comme situation, c'est des situations qui inquiètent. Hein, c'est-à-dire, ces objets, est-ce qu'ils contribuent pas à nous isoler les uns des autres? Est-ce qu'on va pas passer bientôt plus de temps devant un écran qu'à échanger avec des gens en chair et en os, ça fait partie des inquiétudes et des questions aussi qu'on a à avoir, justement, enfin, sur les usages qu'on peut avoir avec ces objets-là. De plus en plus, en fait. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous, au départ, on a reçu plutôt des joueurs de jeux vidéo. Après, les joueurs de jeux vidéo sont venus les accros aux sites pornographiques, parce que Internet, c'est une... Les accros aux sites pornographiques, c'est-à-dire les gens qui passent du temps à regarder des sites pornographiques. Et donc, un peu comme ça, en ouvrant la porte sur ces questions d'écran, on a vu arriver d'autres publics. Et aujourd'hui, les gens qui se présentent, ils nous parlent effectivement non pas d'un usage unique d'un jeu vidéo et je suis accro à ce jeu vidéo, etc. Généralement, il y a les jeux vidéo, les séries télévisées, enfin les séries qui s'enchaînent, voilà, pour se remplir, et les blogs, les forums pour échanger un peu quand même.
Les réseaux sociaux, ça en fait partie. Que ce soit Twitter, Facebook ou autre. Voilà. Je vais pas leur faire de la pub, mais ça peut faire partie aussi de l'addiction. Comment définir ça ou comment? Enfin, c'est difficile, j'imagine. Mais...
En fait, c'est protéiforme. Ça veut dire qu'en fait, on évolue, enfin, en tous les cas, de mon point de vue, moi, j'évolue en fonction des demandes qui me sont faites. C'est-à-dire qu'au début, j'ai vu que des joueurs de jeux vidéo. Ensuite, sont venus d'autres gens qui m'ont parlé d'autres problématiques. Et aujourd'hui, on en est effectivement à recevoir des gens qui disent, bon, il y a le jeu, mais il y a aussi le temps que je passe à regarder d'autres joueurs jouer. Il y a le temps que je passe à regarder des séries, il y a le temps que je passe sur les réseaux sociaux et le résultat, c'est qu'effectivement, je ne me détache plus ou de mon ordinateur ou de ma tablette ou de mon téléphone portable. Enfin bref, il y a toujours un écran, effectivement. Alors, c'est sans doute la forme qui est en train de prendre cette addiction qu'on avait repérée aux jeux vidéo. Elle est en train de prendre une forme comme ça plus complète sur l'ensemble des écrans, il me semble. Mais pour l'instant, on n'a évidemment pas le recul nécessaire pour dire bah, c'est ça aujourd'hui, l'addiction aux écrans. Mais on se questionne de plus en plus.
Et par rapport à ça, quelle serait la démarche justement pour éviter qu'en règle générale, on passe beaucoup de temps, je veux dire, nous, en tant qu'adultes aussi, sur les écrans, quelle qu'en soit la forme.
Ouais. Enfin, je sais pas, tout le monde a entendu la question ? Finalement, c'est la question un peu de la régulation. Comment est-ce qu'on arrive à réguler notre propre rapport aux écrans en se trouvant... Alors, c'est une grande difficulté, parce qu'il va falloir se trouver des règles communes à chacun, à chaque foyer, pour pouvoir, entre parents et enfants, puisque très généralement, c'est là où il y a des soucis et des conflits, c'est de se trouver des règles communes. Alors... Il est vrai que dans cette histoire, les adultes ne sont pas des modèles, hein, loin de là. Très souvent, on a tendance à dire « Ah, mais les jeunes et les jeux vidéo, etc. » Mais à bien y regarder, les adultes passent beaucoup, beaucoup de temps devant leur écran, soit pour travailler, soit pour des loisirs, soit aussi pour regarder des séries, que sais-je. Enfin, voilà. Donc, je crois, les règles communes, ça pourrait être, par exemple, j'entends... Alors moi, c'est à chacun d'être créatif au sein de son propre foyer, hein. Je tiens à le dire, parce qu'évidemment, les règles qui marchent dans une maison ne vont pas pouvoir marcher dans une autre. Mais ce que j'ai pu entendre, c'est la suppression des écrans la nuit. Ça, c'est un truc intéressant à faire. Mais ça veut dire, je laisse mon téléphone portable, l'ordinateur portable, et tout le monde, à la même heure, en gros, coupe les écrans. Mais que ça soit un peu pour tout le monde pareil. Et qu'on éteigne... véritablement les téléphones, qu'on les éteigne, pas les laisser allumer au cas où, juste à côté de la tête, au cas où on m'envoie un message la nuit. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est des règles qui doivent être communes. Et c'est pour ça que c'est difficile à mettre en place, parce que les adultes, eux aussi, ont à se remettre en cause dans leur manière de faire. Par exemple, ça serait ça, c'est de faire finalement un couvre-feu des écrans. Ah, mais ça marche avec. Hein. Quand je dis les écrans, moi, j'englobe tous les écrans, hein. C'est-à-dire l'écran de la télévision, l'écran de l'ordinateur, l'écran du téléphone portable. Au moins mettre des horaires, voilà, qui sont liés à la vie réelle. Après, dans le rapport éducatif, juste une autre idée, dans le rapport éducatif, il faut inciter les plus jeunes à apprendre à faire des pauses. Parce qu'effectivement, c'est des outils, tous ces écrans, qui sont en continu, qui sont permanents, qui sont tout le temps là. Alors, c'est à nous de trouver des repères là-dedans, et c'est à nous de nous arrêter. Alors, les plus jeunes, ils ne savent pas faire ça. Hein. Ils ne savent pas s'arrêter. C'est aux parents de les aider à s'arrêter. Donc, s'imposer des pauses. Et ça commence tout petit. Si on déboule devant un enfant de 16 ans qui n'a jamais eu de règles par rapport à sa relation à l'écran en lui disant « là, tu t'arrêtes », eh ben ça ne va pas le faire. Ça va être trop brusque et ça ne va pas être compris. Il faut donc commencer beaucoup plus tôt. À faire des pauses de manière régulière, par exemple, aussi. Il y avait une question au fond, peut-être une idée.
On a essayé pas mal de choses. Ouais. Et nous, au départ, on comptait un petit peu sur le... que les enfants, on leur avait dit, il faut limiter les choses. Et puis, voyant que ça ne se limitait pas, on a carrément dit stop. Et on n'a pas la télé. Et souvent, les jeux, enfin la tablette et le téléphone, parce qu'ils ont chacun choisi ce qu'ils voulaient acheter eux. Ouais. Moi, je n'étais pas d'accord pour qu'on les achète. Donc bon. Et on les confisque les périodes d'école. Alors après le week-end, si jamais on le laisse, on s'aperçoit que si on laisse un temps illimité, ils peuvent rester la journée sur le canapé. Et moi, ça me panique, quoi. Enfin. Ouais. Et donc bon. Régulièrement, on prend. Et puis ils nous disent, mais si, tu vas voir. À chaque fois, c'est tu vas voir, je ferai. On va essayer, ça va marcher, et puis non. Donc je voulais savoir déjà à quel âge, enfin, oui, après 25 ans, mais enfin, on ne sera peut-être pas avec eux jusque-là tout le temps, quoi. Mmh. Et puis il y avait un autre souci aussi, c'est quand vous parlez d'une règle familiale. Mmh. Quelquefois, les horaires des uns ne correspondent pas avec les horaires des autres.
Eh oui.
Alors, personnellement, je trouve bon, que Internet, tout ça, c'est super. Il y a pas mal de choses super intéressantes et ce n'est pas ce qu'ils vont forcément y voir. Ils vont quelquefois simplement consommer, pas forcément des trucs très méchants, mais des trucs, bon, je dis d'accord, c'est marrant, 5 minutes, 1 heure, mais c'est bon. Et puis, ça prend du temps, comme vous disiez. Et puis, alors, donc, moi, ce que je leur reproche un petit peu, c'est de ne pas aller voir les choses vraiment intéressantes qui sont disponibles, que moi, je vais chercher une fois tous les 36 parce que je n'ai pas le temps. Mmh. Et par exemple, par rapport au papa, mon mari, lui, a des horaires, enfin, il rentre très tard. Et c'est vrai que des fois, s'il veut consulter des choses, genre Le Bon Coin, je prends un truc, ça va être plus tard qu'eux. À ce moment-là, ils doivent être au lit. Mmh. Et bon, vous voyez le décalage par rapport, quand vous dites un horaire familial, c'est difficile, quoi.
Ah oui, c'est pour ça que je disais que c'est au cas par cas. C'est à chacun d'essayer de se trouver ses règles. Mais c'est vos enfants, là, qui vous entourent ? Qu'est-ce qu'ils en pensent Alors, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Parce que, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché, là, les règles que maman essaye de mettre en place Qu'est-ce qui se passe à passer l'après-midi sur la tablette? Enfin, expliquez-nous, si vous le pouvez.
Je n'ai pas compris la question.
Ben, là, votre maman, elle dit, en gros, nous, on a essayé de mettre en place des règles à la maison, mais je vois bien que si mes enfants, je leur confisque pas et le téléphone portable et la tablette, eh bien, ils seraient capables d'y passer leur après-midi entière. C'est vrai, ça ?
Je pense que oui.
La dame ne va pas te juger, hein. C'est juste, on s'interroge.
Parce qu'il n'y a pas d'autres activités à faire, parce que qu'est-ce qui se passe ?
J'ai pas de réponse au sujet.
Ouais. Je précise que je préfère les voir faire d'autres activités. Genre, bah, je veux bien les emmener n'importe où. Enfin, ils font des activités et je préfère les voir avec une activité, des activités multiples. Plutôt que n'importe quoi, plutôt que qu'assis à consommer.
Bah ouais. Et vous avez quel âge, les enfants? Ils ont quel âge?
J'ai 14 ans.
Ah bah voilà. Et toi?
J'ai 11 ans.
Mmh. Un petit peu plus créative. Bon, quelquefois, si je confisque, elle va trouver quelque chose pour s'occuper. Le garçon, c'est plus difficile. Mmh.
C'est l'adolescence. Oui. Là, j'entendais une idée, un monsieur qui disait, le foot. Bah ouais, le foot. Mais on pourrait avoir les mêmes, enfin, on pourrait imaginer le même discours et ça n'a pas eu lieu d'ailleurs. Hein. Les jeux vidéo ont vraiment créé un émoi dans la population. On s'est tous beaucoup inquiétés de cette question des jeux vidéo, des écrans en général, quoi. Mais on pourrait imaginer des enfants comme ça qui passent le week-end à faire du foot. Ça ne serait pas non plus une solution pour eux. On les limiterait d'ailleurs beaucoup plus vite que dans leur rapport aux écrans. Et d'ailleurs, eux-mêmes seraient plus vite limités parce qu'à un moment donné, on s'épuise physiquement à courir derrière un ballon, ce qui n'est pas le cas avec les écrans. Et c'est bien parce qu'on ne s'épuise pas physiquement qu'on peut y passer autant de temps. Il y a un rapport entre l'effort à fournir et le plaisir obtenu qui est inédit dans la société, je dirais, puisque c'est en fournissant un minimum d'efforts que je peux obtenir pas mal de plaisir. Et c'est sur ce ratio-là que les écrans ont autant de succès. On se fatigue sur les téléphones portables.
À force d'être dessus, ça fatigue plus que si on faisait une activité derrière.
Mmh. Ouais.
Justement, ce que je voulais dire, c'est par rapport à ça, j'entends dire que beaucoup de jeunes, en fait, ont des accidents, des fois cardiaques. Mmh. Le fait qu'ils ne font pas d'activité sportive ou physique chez eux, il n'y a plus rien à faire vraiment. Et donc, on rencontre des fois des trucs comme ça, Mmh. On dit, bah oui, bah, ils n'ont pas l'habitude de faire d'efforts, donc ils ont eu un problème de santé. Mmh. Et ça peut aussi finalement se dire, rester tout le temps assis devant un écran et des heures, c'est pas bon pour la santé. C'est...
Mmh. Mmh. C'est sûr que la position... c'est même le problème avec ces écrans en général, quoi. C'est-à-dire la position du corps dans cette affaire est assez sédentaire, c'est assez immobile. Alors, on pourrait dire, mais si le corps est impliqué dans les jeux vidéo, et d'ailleurs, il y a toute une gamme de jeux qui se développent, par exemple, dans les jeux vidéo, où on vous demande de bouger votre corps, hein, notamment avec une console qui s'appelle la Wii. On vous demande de bouger votre corps devant l'écran. Mais c'est quand même pas ce qui se passe le plus avec ce type de support des écrans en général. Et il y a des risques médicaux liés à cet immobilisme, oui, bien sûr. Bon, ça. Je sais pas si je continue sur mes jeux en ligne ou si je sais pas comment. On continue sur les jeux en ligne. Ouais. Alors, les jeux pour lesquels j'ai reçu le plus de joueurs, ce sont les MMORPG. Encore un acronyme sympa cet après-midi pour vous. Les MMORPG, ça veut dire Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Ce sont des jeux de rôle massivement multijoueurs en ligne. Hein, ça veut dire que ça se joue en ligne, c'est-à-dire connecté à Internet, et que généralement je rejoins non pas un ou deux joueurs, mais plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de joueurs qui vont participer au même jeu. Et les MMORPG, ce sont des jeux de rôle. Alors le plus célèbre d'entre eux, vous le connaissez sans doute, il s'appelle World of Warcraft. Alors ce jeu-là est plutôt sur la pente descendante, c'est-à-dire il perd des joueurs. En 2008, il avait un nombre de joueurs... complètement fou, jusqu'en 2011, je crois. Puis depuis, il commence à être en perte de vitesse. Mais il est assez exemplaire des jeux de cette catégorie. Je vais vous montrer quelques extraits. Comment ça marche un MMORPG ? Il y en a qui savent sans doute. Oui. Oui. Il se vend plus ? Ah, ça, je ne sais pas. Moi, on m'a annoncé un grand retour de Counter-Strike. Eh, ça se vérifie. Voilà. Call of Duty a finalement moins de succès. Le vieux Counter-Strike revient. C'est une tendance. Comment ça marche, les MMORPG ? Alors, dans les MMORPG, comme c'est des jeux de rôle, j'incarne un personnage. Alors... ce personnage qu'on appelle un avatar. Le voilà, par exemple, dans World of Warcraft. Ce personnage, il va progresser, il va se développer au fur et à mesure du temps que je passe sur le jeu. Oui, ce sont des images très anciennes. Je comprends. Et très généralement, en fait, pour se développer, il va effectuer un certain nombre de tâches. Alors là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, les tâches, c'est souvent tuer, massacrer un autre personnage. Ici, il s'agit d'un petit marcassin, n'est-ce pas ? Donc, que mon personnage doit tuer. Et c'est chose faite. Et ce qui fonctionne à peu près dans tous les jeux vidéo et qui les rend tellement attractifs, c'est ça. C'est ça. C'est que la récompense arrive directement après l'action. C'est-à-dire, j'ai réalisé la mission que l'on m'avait confiée et je suis immédiatement récompensé. Et ça, en termes d'apprentissage, c'est très efficace. C'est ce qui ne se passe pas à l'école, généralement, puisque vos profs mettent une petite semaine à corriger vos devoirs et qu'en une semaine, eh ben, on a le temps d'oublier... hein, même ce qu'on nous a posé comme question dans notre devoir, et qu'on a plus de mal à faire le lien entre la correction, ça paraît un peu lourd, on ne fait plus le lien. dans les jeux vidéo, parce que ce sont des logiciels, eh bien, systématiquement, après que vous ayez fait une action, et surtout si vous l'avez réussi, évidemment, eh bien, vous êtes récompensé. Et ça, c'est très important. Et c'est ça qui fait, qui crée ce qu'on appelle un renforcement positif. C'est ça qui va inciter le joueur à rejouer. L'autre gros avantage aussi, en termes d'apprentissage d'un jeu vidéo, c'est que finalement, si je rate ma mission, ce n'est pas un problème. Je peux recommencer, et autant de fois que nécessaire. Ce n'est pas pareil à l'école. Hein. Si je rate un peu mes devoirs à l'école, je suis éliminée. L'apprentissage par l'échec des jeux vidéo, il est très intéressant, et il serait très intéressant de l'appliquer un peu au milieu scolaire. Ça serait plus efficace, peut-être.
Est-ce que... Est-ce que le feu sur Internet, c'est dangereux aussi ?
Est-ce que le feu sur Internet...
Non, le foot.
Le foot sur Internet, c'est dangereux aussi. C'est-à-dire en quel sens c'est dangereux ?
Match.
Au niveau de l'épuisement physique ?
Oui.
Non, je ne pense pas que le foot sur Internet soit dangereux en termes d'épuisement physique. Ça, c'est sûr et certain. Puisque même si les joueurs, eux, bougent beaucoup... L'épuisement, c'est pas ça la question, peut-être. Non. Aidez-moi.
Il veut savoir si le fait de jouer au foot, match ou SPHD, ça peut être dangereux.
Et comment il joue ? Est-ce qu'il joue à un jeu vidéo ou est-ce qu'il fait des paris sur Internet ?
Je joue en vidéo.
D'accord. Est-ce que c'est dangereux ?
Oui.
Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme danger ?
Si on fait un match avec quelqu'un qu'on fait les mêmes techniques.
Mmh.
Et puis, continue.
Mais ça serait quoi le danger alors là ?
Ben oui.
Aucun.
C'est ça ?
Bah, oui. Il n'y en a aucun, comme si on joue sur des consoles. Hein. Mmh. Aucun danger. Hein. Mmh. Par exemple, il n'y a aucun danger quand on joue sur la Wii au jeu de foot. Moi, parfois, je suis capable de jouer 8 heures, voire 10 heures par jour et je vois aucun danger.
C'est un passe-temps qui prend beaucoup de temps. C'est ce qu'on dit, voilà, c'est le terme que me souffle Aline, c'est chronophage. C'est-à-dire que ça prend plus de temps que ce qu'on avait estimé au départ. Peut-être que quand vous vous lancez dans un match de foot, vous ne vous dites pas « je vais y passer 8 heures ». Non ? Vous vous dites ça, vous ? Oui ?
Je pense qu'il faut se distinguer bien, en tout cas, les conduites addictives dont vous parliez, et puis le passe-temps. Donc, parce que le jeu vidéo est, on dit aussi, vidéo ludique, c'est drôle, on aime y passer du temps pour de bonnes raisons aussi. Et finalement, on y passe du temps, on a du plaisir. Même s'il y a un système récompense, etc., mais qui participe aussi de ce plaisir, on est bien sûr à fond. Et puis, je rejoins ce que disait la jeune fille tout à l'heure, au bout d'un moment, on arrive à saturation. Naturellement, on va s'arrêter parce qu'on n'en peut plus, on est fatigué, on a envie de mettre le nez dehors, de prendre le soleil, etc. Et ça, physiologiquement, ça se ressent. Et puis, naturellement, les gens, sauf lorsqu'ils sont peut-être en conduite addictive, vont le faire.
Enfin, les gens, les adultes, vous voulez dire ?
Tout le monde.
Non, pas tout à fait vrai, ça. Un enfant, si vous le laissez... Lui laisser un jeu, il va le faire jusqu'à épuisement parce qu'il n'a pas de limite et il faut l'aider à se mettre des limites.
Je vous rejoins sur le fait que les parents doivent mettre des limites, poser des cadres, etc. Mais l'enfant, il va aussi saturer. Au bout d'un moment, il va s'arrêter de jouer.
Oui, mais il ne va pas réussir à s'arrêter. Non, et c'est ça la différence. C'est que l'adulte, il va saturer et il va se dire, tiens, c'est un peu comme mon histoire de chocolat tout à l'heure, eh ben, j'arrête d'en acheter. Ou tiens, ben là, j'ai besoin de sortir dehors, je le sens, je sais interpréter, parce que je me connais et je ressens certaines choses, je sais interpréter quand j'ai besoin de sortir dehors, d'arrêter cet écran, etc. L'enfant, il n'a pas les mêmes capacités d'analyse de ses propres éprouvées pour décider qu'il faut qu'il sorte.
Ah, c'est certain, d'où
l'importance.
Qu'il sorte
dehors. C'est pour ça qu'il y a tout un apprentissage.
Oui, qui doit venir des parents.
Conduite.
Ouais. Mais je crois quand même qu'il y a un effet de saturation physiologique. Et à l'image du chocolat, au bout d'un moment, le gamin, bon, il sera peut-être au bord de la sirop, il sera gavé, mais il va s'arrêter, quoi.
Ben là, une fois de plus, je ne suis pas d'accord avec vous. On le voit avec les bonbons. Si vous laissez un plat avec autant de bonbons qu'ils peuvent, il va les manger jusqu'au bout, jusqu'à être malade.
Ouais.
Si nous, on ne met pas de limite. Et on l'a appris avec le sucre depuis un petit moment. Et c'est pour ça que c'est notre rôle d'adulte, un peu, d'être des régulateurs. Alors, sans être trop dans l'interdiction, effectivement. Donc, c'est pour ça qu'il faut se trouver des règles, il faut réussir à se mettre d'accord avec ses enfants, et que c'est du boulot, que ça nécessite beaucoup d'efforts. Mais je ne crois pas que ça soit quelque chose d'inné que de savoir s'arrêter dans une activité qui nous fait plaisir.
Je ne parlais pas de savoir s'arrêter de façon innée. Je vous rejoignais justement sur le fait que les parents doivent intervenir pour leur poser les limites. Oui. Mais je pense que la fatigue, la saturation existe, même si elle n'aboutit pas nécessairement, c'est ce que vous disiez, sur l'arrêt du jeu.
Et puis, vous sembliez dire, alors on va essayer de distinguer, vous aviez l'air de faire cette distinction, merci, vous allez nous aider, entre le passe-temps et la conduite addictive. Ben moi, j'ai beaucoup de mal. Je dirais même que le temps passé, c'est pas le bon critère. Parce que j'ai pu rencontrer des joueurs de jeux vidéo qui passaient seulement 2-3 heures par semaine, même parfois sur leur jeu, parce qu'ils étaient en internat, parce que les parents avaient mis des contraintes très importantes. Mais ils y pensaient toute la semaine. C'est-à-dire que leurs 3 ou 4 heures de jeu qui leur étaient accordées, ça occupait dans leur tête tout l'espace. Donc, finalement, peu de temps d'exposition, mais une préoccupation psychique très importante. Le temps, ce n'est pas la meilleure des variables. Parce qu'il est normal, quand on est face à un nouvel outil, d'y passer, par exemple, beaucoup de temps. Les autres variables, c'est la qualité de vie. C'est tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire, est-ce que j'ai des relations sociales qui sont satisfaisantes ? Est-ce que j'ai du plaisir ailleurs que dans ces écrans ? Comment ça se passe avec mon entourage ? Ça revient un peu, c'est un peu toujours les mêmes choses qu'on va aller voir, quoi. Mais c'est surtout sur ces points-là, sur lesquels, comment ça se passe scolairement ou comment ça se passe professionnellement ? Est-ce que j'obtiens de la satisfaction dans ces domaines-là ? Par exemple, il y avait une autre question là-bas.
Est-ce que, par exemple, quand on fait un écran avant d'aller faire une activité ou quelque chose comme ça, et que pendant l'activité, on n'y pense pas, mais est-ce que ça nous déconcentre quand même ou pas ?
Ben, toute activité, en fait, quelle qu'elle soit, nous préoccupe. Quelque part. Ça veut dire que ça, et dans notre cerveau, les choses, elles ne s'arrêtent pas d'un coup, d'un seul, comme quand on appuie sur le bouton de la lumière. C'est-à-dire que si tu commences une activité, puis que tu l'interromps et que tu vas en commencer une autre, il se peut que dans ta tête, tu penses encore à la précédente activité, mais que ça soit sur un écran ou que ça soit une toute autre activité. Hein, ça, c'est-à-dire que notre esprit humain, il n'est pas justement comme un ordinateur, il n'est pas comme une machine. En général, on ne s'arrête pas d'un coup d'un seul de penser à quelque chose. Une fois qu'on a commencé une réflexion, elle peut même continuer à notre insu, c'est-à-dire sans qu'on l'ait demandé. Elle peut se développer. Et c'est comme ça que tu vois réapparaître une préoccupation que tu avais avec ton activité précédente, alors que tu es déjà en train de faire autre chose.
Mais la préoccupation, c'est pas la même chose que la centration. C'est-à-dire que ça peut préoccuper le travail, peut préoccuper le soir ou l'école. Mais y penser dès le matin, dès le réveil, à chaque activité, enfin, ça, c'est la centration. C'est-à-dire quand ça devient exclusif et qu'on ne pense plus qu'à ça quasiment la plupart du temps. Mmh. Et que ça vient empêcher toutes les autres activités de procurer du plaisir ou d'être satisfaisante. Mmh. Ce que nous décrivent les genres... les joueurs pathologiques. Mm.
Tu avais une question ?
Ah bah vas-y, fais-nous la question-réponse.
Je me disais que, en fait, quand on a dit que ça dépend de l'importance des jeux vidéo sur que... Non, cherche ma phrase.
Vas-y.
Que l'importance des jeux vidéo prenne dans notre vie, ça veut rien dire.
Oui.
Enfin, c'est ça en fait. Voilà.
En fait, c'est un peu ce que disait Aline. Effectivement, c'est quand l'addiction, il y a ce phénomène de centration, c'est-à-dire qu'on va s'investir exclusivement dans cette activité et on va plus s'investir dans les autres. Mais ça ne dépend pas uniquement de l'objet jeu vidéo. Ça dépend de beaucoup d'autres choses que l'objet jeu vidéo lui-même. Ça dépend de comment je me sens, moi, par rapport à moi, par exemple. Ça dépend des satisfactions que je vais obtenir dans mes études, auprès de mes copains, auprès de mes parents, etc. C'est plus ça qui va faire que je vais avoir envie de m'investir à fond dans les jeux vidéo ou dans les écrans que les écrans et les jeux vidéo eux-mêmes. C'est très souvent ça. C'est-à-dire que l'addiction, c'est plus dépendant de ce qui se passe dans ma vie et de ma qualité de vie en général que de l'objet lui-même. L'objet jeu vidéo, là. Ça va ? Alors du coup, on en était où ? On en était en train de parler, à chaque fois on fait des allers-retours. Je reviens sur les MMORPG, ça vous va toujours ? Donc des jeux dans lesquels on développe un personnage qui va évoluer dans des mondes particuliers qui ont un certain nombre de caractéristiques que l'on trouve maintenant quasiment dans tous les jeux. Alors est-ce que je vais noter là ? Voilà. Les caractéristiques propres au MMORPG. Alors moi, en y réfléchissant là dernièrement, je me suis dit que dans ces jeux de rôle-là, surtout ce que cherchait à faire le joueur, alors ils sont toujours en recherche de performance, hein, les joueurs en tous les cas excessifs, pathologiques que je rencontre, moi, ils sont toujours dans cette recherche de performance, et c'est une recherche de performance sur soi-même. Ils veulent développer le meilleur personnage. Et du coup, ils vont y passer énormément de temps à développer ce meilleur des personnages. Autre élément qui va faire que ce jeu est particulièrement, ce type de jeu est plus accrocheur, ce sont les caractéristiques des mondes dans lesquels évoluent les personnages du joueur. On dit que ce sont des mondes persistants. Persistants, ça veut dire que le monde se déroule sur lui-même, se développe sur lui-même. Et contrairement à un jeu traditionnel où si je suis un des joueurs et que je m'absente, là le jeu va s'arrêter. Mais en fait, là, le jeu ne s'arrête pas. C'est-à-dire que quand je suis absent, eh ben, le jeu continue de se développer. Et là aussi, ça peut créer un phénomène de préoccupation qui peut aller vers l'obnubilation, qui peut aller jusqu'à devenir la centration. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que de l'investissement par rapport à cette activité. Permanent, ben, ça, une autre des caractéristiques de ces mondes, c'est qu'ils sont accessibles 24 heures sur 24. Et ça, c'est une caractéristique... Par exemple, avec des joueurs de jeux de hasard et d'argent, il y a des gens qui nous racontent qu'ils se sont limités toute la journée. Ils ne sont pas sortis avec leur carte bleue, qui est le moyen de paiement pour obtenir des jeux de hasard et d'argent. Ils se sont interdits d'aller au café. Ils se sont empêchés d'aller dans les points de vente de jeux de hasard et d'argent. Et le soir, ils ont lutté comme ça toute la journée. Et puis le soir, vers 22-23 heures... Ils commencent un peu plus à craquer, ils étaient en lutte contre eux-mêmes toute la journée. Et là, maintenant, y a Internet. Internet qui va leur proposer une offre de jeu. Et souvent, il y a craquage à ce moment-là. Donc le fait que les objets soient accessibles tout le temps participe de notre engagement dans des conduites addictives. D'où cette idée, effectivement, de faire un couvre-feu. D'avoir un temps sans Internet. Ils sont infinis. Ça, c'est une des caractéristiques vraiment propres au MMORPG, c'est-à-dire que le jeu n'a pas de fin en soi. Et même à l'intérieur du jeu, ce qu'on vous propose de réaliser, c'est des quêtes et des missions, et des quêtes et des missions qui sont souvent enchevêtrées. Ça veut dire que j'en ai pas fini une, qu'il y en a une seconde, voire une troisième qui a commencé, et ça donne ce sentiment qu'il y a toujours quelque chose à faire au sein du jeu. Et ça, ça plaît beaucoup aux joueurs parce qu'ils ont le sentiment d'y être utile. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose qui m'occupe au sein de ce jeu. Et quand les parents disent « quand tu as fini cette partie-là, tu viens »,
dans ce genre de jeu, ça ne marche pas du tout, puisqu'il y a toujours une mission qui est en cours. Donc même si le jeune voulait respecter la consigne parentale en se disant « bah oui, c'est vrai, je vais m'arrêter après cette partie-là », bah, il y a toujours un truc à faire. Il y a toujours quelque chose qui vient se proposer. Et voilà. C'est le même système d'ailleurs qu'on trouve dans les séries télé. Hein. C'est-à-dire qu'on vous fait commencer quelques intrigues dans le premier épisode et qui vont se terminer dans le quatrième ou cinquième épisode. Et du coup, ça vous donne envie d'aller voir ce qui se passe dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième. Bah oui, parce que l'intrigue se déroule au fur et à mesure. Et puis, ils sont certains. Alors ça, c'est une caractéristique aussi qui les rend très, très, très accrocheurs. C'est-à-dire que, comme me l'expliquait un joueur, c'est garanti. Si je m'investis dans le jeu de cette manière-là, c'est garanti, mes efforts vont être récompensés à telle hauteur. C'est comme c'est effectivement des programmes qu'ils ont face à eux, ils vont avoir la récompense. Ce qui n'est pas le cas dans notre monde. Hein. Souvent, ils font la comparaison avec le milieu scolaire. Ils disent là, pour ce devoir de maths, j'ai mis tout ce que je pouvais, mais de toute façon, la prof, elle m'a dans le nez, et donc je n'aurai jamais le résultat que j'espère. Et ils mettent tout le temps en concurrence ces deux mondes-là. Hein, dans le discours des joueurs, c'est très présent. Et c'est vrai. Et donc, des mondes certains, c'est beaucoup plus rassurant hein, que des mondes incertains comme peut l'être notre monde. Ça donne envie de s'y réfugier. Et puis, la communauté de joueurs, et ça, c'est un élément qui est extrêmement important, puisque dans ces jeux, on vous incite à jouer à plusieurs et que forcément, ça va créer des liens entre les joueurs. Voire, il y a des missions qu'on ne peut pas réaliser seul. Il faut absolument être 10, 20, 30, parfois jusqu'à 40 personnes, ce qui est énorme. Ça veut dire coopérer sans pouvoir se voir. Ça veut dire c'est assez intéressant ce qui se passe dans ces instances. Ça s'appelle des instances. Quand les joueurs se rassemblent pour réaliser une mission ensemble, ils vont réussir à se coordonner sans se voir. C'est quand même un très, très bel exploit. Et ça développe sans doute beaucoup de capacités qui leur seront utiles pour le futur, puisqu'on sera toujours plus amené à travailler de cette manière-là pour limiter les déplacements, a priori. Mais forcément, s'il faut être 10 ce soir-là et que finalement mes parents me disent bah « Non, là, il y a le dîner de la tante Misèle, il faut qu'on y aille. » Là, il va y avoir une concurrence entre deux activités. Et à qui vais-je être loyal ? Envers qui vais-je être loyal ? Envers mes parents ? Bon, pour un adolescent, c'est presque suspect. Hein. Ou est-ce que je vais être loyale envers mon groupe avec qui je participe à ces combats, à qui j'ai dit que je serais là. En plus, j'avais pas pensé, moi, au dîner de la tante Misèle, évidemment. Donc, j'avais dit à mon équipe, je serai là. Voilà. Donc, souvent, ça crée des conflits de loyauté. Pas facile, et il y a une espèce de pression comme ça, des pairs d'âge, des autres joueurs, qui vous incitent à être là sur le jeu. C'est ce qui fait que certains joueurs s'y perdent. Et il y a d'autres jeux qui s'appellent des MOBA. Alors les MOBA, c'est la dernière catégorie, c'est la catégorie la plus récente. Ça croise, les MOBA, ça croise un peu les jeux de stratégie en temps réel, donc des jeux de stratégie. C'est un peu de jeu de rôle aussi. C'est un peu entre les deux. C'est une catégorie un peu entre les deux. Dans ces jeux-là, qui se déroulent sous forme de parties, donc cette fois-ci, on n'a pas le caractère infini hein, du jeu, on se retrouve en équipe, très généralement, 3 à 5 joueurs. Chacun occupe des positions différentes sur une carte. Et on doit massacrer, en gros, l'équipe adverse qui dispose du même nombre de joueurs et des fonctions aussi similaires, et on s'affronte comme ça sur une carte. C'est des parties qui vont durer 30-40 minutes et qui vont surtout avoir un aspect de compétition très très fort. Les jeux de type MOBA, le plus célèbre, c'est League of Legends, qui a connu un grand succès ces dernières années, en même temps que World of Warcraft perdait, lui, des joueurs. Il va y avoir un lien, je pense. Mais ces jeux-là, ils fonctionnent surtout sur la dynamique du perdu-gagné. Évidemment, quand on est en groupe de 3 ou 5 joueurs et qu'on perd une partie, ben, on a envie de se dire « Ah ben non, la prochaine partie, on la gagne. » Et donc, du coup, on s'était dit qu'on ferait deux parties, puis on en fait 3, 4, 5, 10, parce qu'il y a toujours cette dynamique qui est très importante et qu'on a envie d'être bon et de gagner. Aujourd'hui, on reçoit beaucoup plus de joueurs qui viennent pour des MOBA que pour des MMORPG dans nos consultations. Donc, plus pour des jeux de stratégie, en quelque sorte, que pour des jeux de rôle actuellement. C'est plus voilà, le public qu'on reçoit. Ah bah c'est fini. Enfin, en tous les cas, le... qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Comment on soigne les joueurs, peut-être ? Quelques mots là-dessus ? Qu'est-ce qui se passe dans nos consultations ? Alors, déjà, quand un joueur... Oui.
C'est plutôt pour les soigner, pour que la personne concernée décide déjà, non ? C'est comme les autres addictions.
Ah oui.
Parce que donc, après, il y a un peu content. Si on a un enfant dans ces conditions-là, il faut que ça vienne de lui. Parce que, ça, si j'ai bien compris, c'est pas en enlevant l'ordinateur et tout. Au contraire, ça va amener des conflits bien plus importants.
Mmh. Vous avez raison.
Que ce soit, que ça vienne ouais. du concerné, la personne concernée.
Ouais. Mais en général, et là je l'ai peu abordé, mais ce n'est pas dans n'importe quel contexte que vont émerger ce type de difficultés, du moins à l'excès. Il peut y avoir des situations d'abus, c'est souvent dans des conférences comme ça qui sont organisées avec les parents. Les parents, ce qu'ils me racontent, ce sont souvent des situations plus d'abus que d'addiction. Hein, on est plus dans l'abus, on cherche à savoir comment tenir le cadre du côté des parents. Parce que finalement, oui, on a mis le contrôle parental en place, mais vous comprenez, il le déjoue à chaque fois. Alors, comment est-ce que je fais, etc. On a essayé de poser des règles, ça ne fonctionne pas, etc. On est plus dans des situations d'abus. Et alors, peut-être que là, déjà, dans les situations d'abus, on peut venir rencontrer, alors peut-être pas le jeune lui-même, puisque lui, il ne se sent peut-être pas concerné. Il est peut-être dans l'abus, mais il n'est pas dans l'addiction. Ils ne sont pas concernés, mais peut-être que les parents, ils peuvent déjà venir rencontrer des psychologues pour discuter un peu de la situation et avoir un peu des conseils, discuter des limites qu'ils ont posées et de comment rendre ces limites plus performantes, etc. Enfin, en tous les cas, qu'elles soient plus respectées. Donc, si on ne peut pas faire bouger le sujet lui-même, le joueur lui-même... On peut peut-être se bouger déjà en tant que parent et venir rencontrer des professionnels et échanger sur la situation.
Est-ce que pour vous, les pro-gamers sont addicts ?
Les quoi ?
Les pro-gamers, ceux qui en font leur métier.
Bah non. Pour moi, l'addiction, pour moi, ça comporte cette idée de souffrance. Je pense qu'un pro-gamer, s'il a choisi de faire cette carrière-là, S'il s'est créé les conditions pour cette carrière-là, je lui souhaite en tous les cas de tirer de la satisfaction de son choix d'orientation professionnelle. Les gens que je vois, moi, qui sont addicts, ils souffrent de ce comportement. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas des petits jeunes de 14 ans. Je vois des gens souvent qui ont 10 ans de plus et qui se retrouvent un peu à la masse, comme on dit. Ils sont mis un peu sur le rebord et ils regardent les autres progresser dans leur vie. Ils ont 22, 23, 24 ans. Ils n'ont généralement pas fait d'études ou plutôt ils ont fait plein de débuts d'études sans jamais aller au bout. Ils n'ont pas beaucoup de relations sociales et ils n'ont pas non plus de relations affectives avec un partenaire ou une partenaire. Donc souvent, ils font un constat douloureux de leur situation. Et c'est pour ça qu'ils viennent demander de l'aide. Ils ne sont pas dans la situation du pro-gamer qui s'éclate avec le choix qu'il a fait professionnel et qui se réalise. Ce n'est pas les mêmes catégories. Voilà. Dans l'addiction, il y a de la souffrance. La souffrance à être dans cette situation d'isolement, souvent, pour les joueurs de jeux vidéo. Donc, si jamais le joueur lui-même ne veut pas se déplacer, la famille peut peut-être se déplacer. C'est déjà un début, en tous les cas, en matière de soins. Ensuite, souvent, comme pour toutes les formes d'addiction d'ailleurs, même quand la personne se déplace jusqu'au centre médical, en tous les cas chez nous jusqu'à l'hôpital Marmottan par exemple, ou jusqu'au tourniquet, eh bien, il se présente souvent avec une demande qu'on qualifie d'ambivalente. C'est-à-dire qu'en gros, ce que veulent la plupart des addicts, c'est que pouvoir continuer le comportement en cessant les conséquences négatives. Voilà. Ah, mais si ça posait pas tant de problèmes à la maison, mais si ça m'isolait pas tant, mais si ça m'empêchait pas de poursuivre mes études, ça me poserait plus de problèmes, ça serait formidable. Ah, ben oui. Donc c'est ça. Donc nous, de toute façon, quand on va rencontrer une personne qui est aux prises avec un processus addictif, il va falloir aussi l'encourager. L'encourager et faire alliance avec, on dit, la partie la plus saine de l'individu, celle qui veut s'en sortir, celle qui veut faire cesser cette souffrance liée à l'addiction. Et donc, avec des joueurs de jeux vidéo, il me semble que c'est important de prendre le temps de parler du jeu lui-même, des plaisirs qu'ils y éprouvent, de décrire un peu ce qu'ils vivent dans ce monde-là. C'est un temps important. C'est de remettre la parole au centre, parce que c'est très souvent des personnes, enfin les joueurs de jeux vidéo, qui finalement ils se sont tellement abstenus d'être dans la relation sociale directe et de parler directement aux gens qu'ils ont un peu perdu cette habilité-là, on va dire. Donc ils sont plus timides dans la prise de parole et l'occasion des entretiens, ça leur permet un peu de reprendre l'habitude de discuter.
C'est aussi pour ça qu'on leur fait parler du jeu, notamment. Hein, parce qu'on rencontre des jeunes qui sont finalement assez en retrait. Et une fois qu'on leur fait parler de leur personnage, ils se mettent à s'animer, à être plus à l'aise dans la relation.
Ouais. Pour vous, ça serait combien d'heures par semaine d'écran ou par jour? Enfin, si, sans faire quelque chose de familial, par exemple. Pour un enfant, en moyenne, ça serait quoi?
Moi, j'ai pas de temps horaire à donner. Enfin, non, mais parce que les chiffres se bousculent un peu dans ma tête quand je pense que 3h20 de visionnage de télévision par jour en moyenne pour les Français... pensez bien qu'après, comment est-ce qu'on fait pour fixer un temps horaire par jour par rapport aux écrans? Enfin, en général, ça me paraît être très compliqué. Et c'est là où, une fois de plus, propre à chacun.
Et puis, il y a la question de l'âge aussi. Un enfant de 3 ans, un enfant de 6 ans, un enfant de 8... Enfin, c'est
ça
assez
sera
difficile
pas
de...
même temps.
Si c'est quelque chose de constructif, qui va être, mais si c'est de la consommation pure comme ça, vous parliez d'hypnose au début, je trouve que c'est assez juste quand on les voit devant les écrans. Si c'était un peu plus dans la recherche.
Après, il faut savoir trois quarts d'heure, enfin, d'arriver à comprendre les jeux aussi, parce qu'il y a certains jeux quand il s'agit de faire évoluer justement des personnages. C'est vrai que les limiter, moi j'entends des fois des parents qui me disent, bon, je lui accorde de jouer 20 minutes et ensuite, mais en 20 minutes, il rentre dans le jeu. Donc, il dialogue. Enfin, c'est-à-dire, ça ne lui laisse pas suffisamment. Tout dépend les jeux, en fait. Tout dépend, c'est ce que vous dites. Tout dépend.
Oui. Enfin,
quel type d'écran, quel objet, de quel objet on parle, de quel jeu on parle. Et ça serait de vous inviter à aller un peu. Découvrir cet objet-là avec votre enfant pour pouvoir après établir des règles avec lui. Effectivement, s'il est dans une position passive, ce n'est pas la même chose s'il est consommateur ou s'il est en train de développer un personnage.
Oui, alors nous, on est très peu concernés par les jeux, mais plutôt par les sujets, par exemple, tous les youtubeurs qu'on peut voir sur leur... tablette et compagnie. Alors, quelquefois, ça peut être sympathique. Et moi, c'est vrai que des fois, on me dit, tiens, maman, viens voir, c'est marrant et tout. OK. Je dis, oui, c'est très drôle, OK. Et puis, alors, des fois, on essaie d'un peu d'analyser. Puis, il y a des fois, je dis, non, tu vois, ça, c'est lassant. Bon, ça. Bon. Et c'est là où, moi, je trouve qu'il y a de la consommation. Et Après, quand on essaie de décortiquer un peu le discours du gars qui a fait la vidéo ou de la fille, j'ai dit, tu vois, lui, il a décrypté les trucs dans ce qu'il a observé et c'est ça qui caricature. Et bon, mais là, non, j'ai l'impression que c'est de l'absorption. Et puis, par exemple, pour aller chercher des infos, quelquefois, à tous les parents, on demande, eh oui, pourquoi si, pourquoi ça? Ok, alors on répond plus ou moins habilement. Et puis après, on dit, mais tiens, va donc voir sur Internet, puisque. C'est pour ça que le temps, moi non plus, mais quand on les laisse avec l'instrument, j'ai l'impression que c'est magnétique.
En tous les cas, pour Internet, il est vrai qu'il y a quelques années de ça, on utilisait la métaphore du surf. C'était surfer sur Internet, etc. Aujourd'hui, on utilise plutôt la métaphore de la mine. Parce qu'en fait, quand on va chercher une information sur Internet, il faut savoir chercher. Hein. Oui. Ça prend énormément de temps parce que finalement, on est emmené de site en site, on ne trouve plus la définition. Est-ce que c'est véritablement ça qu'on cherchait? Puis de toute façon, tiens, bah, on nous propose un autre truc. Ce n'est pas tout à fait en rapport avec notre sujet, mais un petit peu seulement. Mais tiens, on va aller voir. Et effectivement, rechercher sur Internet, c'est devenu... Il faudrait d'ailleurs sans doute former les jeunes gens à savoir chercher sur Internet. Ça serait sans doute quelque chose qui pourrait peut-être apporter plus aux générations futures, qui, on le voit bien hein, dans les courses qui se passent déjà actuellement, le contenu, ils peuvent le retrouver partout ailleurs. Mais aller le chercher, comment savoir, comment se l'approprier, etc., ça, c'est sans doute des choses...
Et vérifier, parce que quelquefois, ils vont voir... Et puis, ah tiens, ça, c'est bon, c'est ça. Je dis, attends, ça me... Non. Et là, aller chercher autre chose, bon, c'est pas... Ouais. Ou vérifier, ou confronter plusieurs... bon, c'est pas trop leur...
En tous les cas, vos enfants, ils sont là, hein, avec vous. C'est que cet après-midi, ils ont accepté de venir...
Il n'y avait pas eu NSS, c'est bon.
Comment?
Il n'y avait pas du NSS, sinon ils ne seraient pas là, mais...
Eh ben, ils sont là.
C'est
quand même là.
C'est un peu une blague.
C'est ouais. Que ça va bien.
C'est une question.
En pensant qu'on allait parler, qu'on allait parler un peu plus des problèmes d'écran en général, parce qu'on a parlé beaucoup de tout ce qui était jeux vidéo. C'est un problème d'addiction aux jeux vidéo, d'isolement, mais je vois aussi les problèmes portables. Pour moi, j'ai eu un problème par rapport, enfin pas moi personnellement, mais j'ai eu quelqu'un qui était dans mon entourage qui a eu un gros problème au niveau des SMS notamment, où c'est vrai que c'est très problématique des personnes qui en fin de compte, ils sont pas déconnectés des autres personnes puisqu'ils communiquent avec d'autres personnes, sauf que les personnes qui sont autour ne communiquent pas plus avec ces personnes-là. Donc on ne parle pas d'addiction. Mais pourtant, c'en est quand même bien une, puisque c'est une personne qui n'arrivait plus à se décrocher du téléphone et il n'arrivait plus non plus à communiquer avec les personnes qui étaient juste à côté. Donc, c'est vrai que c'est un peu un problème. Et on parle beaucoup des jeux vidéo. Les jeux vidéo, bon, et puis on parle aussi des enfants, mais c'est pas qu'avec les enfants.
Ah bah oui, je suis bien d'accord.
Et c'est pas que, quand on dit adulte, pas que des adultes 30 ans, ça peut être encore plus. Donc c'est pas forcément une génération qui a vécu avec l'Internet et tout ça, c'est des personnes qui en fin de compte n'ont pas de limites non plus, malgré que ce sont des adultes. Et c'est vrai que là, je suis un petit peu déçue, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de jeux, et pas de ce genre de problème-là, parce qu'en fin de compte, moi, je m'attendais au problème écran en général. Parce que c'est vrai qu'aller sur Internet pour aller travailler, par exemple, ça arrive. Moi, mes enfants, j'avais essayé de les limiter à une heure par jour. Plus ils grandissent, plus c'est délicat de les limiter une heure par jour, parce qu'à l'école, ils ont besoin d'aller sur Internet de plus en plus. Ils ont besoin de faire des recherches. Comme vous dites, les recherches sont de plus en plus longues pour trouver ce qu'on veut. Avant, on allait dans des bibliothèques pour trouver ce qu'on voulait. Maintenant, sur Internet, on a tout. Mais il faut le trouver. Donc, c'est un peu compliqué de limiter dans le temps, parce que bon, on ne sait pas forcément s'ils sont sur Internet pour trouver des informations ou s'ils sont sur Internet pour faire des jeux. Et quand on dit limite, par exemple, ben, quand vous disiez de limiter, je rejoins un peu ce que disait la dame, limiter toute la famille aux mêmes horaires, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Nous, en tant que parents, on a des obligations toute la journée. On ne va pas s'amuser à jouer à des jeux ou à aller sur Internet.
Vous savez, ils ont des obligations toute la journée.
Non, mais parce que... Ils en ont un petit peu.
Alors, c'est vrai aussi que des obligations toute la journée. Ils sont obligés d'aller à l'école.
Voilà. Et ben, c'est ce qu'on me dit aussi. On me dit, mais moi, je rentre à 6 heures. Je ne peux pas jouer. Alors, du coup, après, à 7 heures, c'est plus possible. Parce que, moi, j'avais mis 7 heures de... Je dis, il y a les week-ends, il y a les vacances. Mais c'est vrai qu'en semaine, ils ont un petit peu moins de temps. Et puis, alors, c'est toujours la comparaison avec les copains. Les copains, ils sont sur Internet jusqu'à point d'heure le soir. Alors, est-ce que tous les parents sont au courant? Ça, c'est une autre histoire. Parce que je suis sûre,
certaine... Et est-ce que c'est vrai, d'abord?
Est-ce que c'est vrai?
Est-ce que c'est vrai? Mais... Simplement de se dire ça, déjà.
Mais il y en a, parce qu'il y en a qui communiquent par SMS, même à minuit le soir. Mais je ne suis pas certaine que les parents savent qu'il y a le téléphone dans la chambre. Mais bon, voilà, donc c'est vrai que tout est un problème aussi de les autres, le temps, et puis ce qu'on y fait, parce que tout n'est pas mauvais sur Internet non plus. Mais doser, c'est pas... Enfin, c'est un peu comme les fruits et les légumes, il faut en manger, mais pas...
Mais vous voyez, mais vous y arrivez, finalement. Mais oui, non, c'est compliqué, parce que c'est une révolution, en fait, ces écrans et ce qu'ils nous apportent, et c'est compliqué de faire le tri, et on est aux prises avec cette révolution. Enfin, c'est-à-dire qu'on en fait partie. Et on n'a sans doute pas la distance nécessaire pour savoir exactement comment se positionner. Et c'est un tâtonnement. Et c'est difficile pour les parents d'aujourd'hui, pour les enfants aussi. Mais pour les parents d'aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il faut faire avec cette nouveauté. On n'y était pas habitué. On n'est pas les plus à l'aise sur ces outils-là, même s'il y a une génération, heureusement... aujourd'hui, ceux qui ont 40 ans, ils ont connu les jeux vidéo, les ordinateurs, etc. Ils ont développé des capacités et ils deviennent parents et ils passent un autre message à leurs enfants, certes. Mais c'est une nouveauté dans le travail de parents qui s'ajoute et qui n'est pas facile et dans lequel on tâtonne et on fait des essais, on fait des erreurs. C'est pour ça qu'il existe. Nous, on a mis en place des groupes de parole pour les parents, pour essayer de soutenir justement... les parents par rapport à tout ce qui est du vécu quotidien par rapport à ces outils-là, à ces écrans-là. Mais c'est pas facile, effectivement. Alors, je suis désolée pour l'aspect addiction. Moi, je travaille dans les addictions. Donc, plus sur les écrans... Alors, sans doute, moi je ne connais pas la situation de la personne auquel vous pensiez tout à l'heure, sans doute qu'il y a quelque chose de sous-jacent pour cette personne, un vécu difficile. On peut imaginer que cette manière de s'accrocher au SMS est peut-être liée à un état dépressif ou quelque chose... Voilà. C'est sans doute plus symptôme, hein, et il va se raccrocher à ce téléphone que... voilà, c'est sans doute plus symptôme. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup des jeux vidéo? Parce que dans l'ensemble de tout ce qu'on a pu entendre et recevoir effectivement à Marmottan, les jeux vidéo se constituaient véritablement comme une addiction, ce qui n'est pas le cas de la télévision. Ce qui n'est pas le cas... Alors, la télévision plus le cannabis ou la télévision plus l'alcool, oui, ça marche. Hein, mais il faut qu'il y ait les deux. Non, c'est vrai. Il faut qu'il y ait les deux, sinon ça ne fonctionne pas. Ah oui, et puis le canapé aussi, c'est très important le canapé, sinon ça ne fonctionne pas non plus. S'il n'y a pas de canapé, il n'y a pas d'addiction là. Mais pour les téléphones portables, on n'a pas encore reconnu l'existence d'une addiction au téléphone portable parce que tout le monde a un téléphone portable, voire deux, voire trois. Que tout le monde est en difficulté, si vous dites non, très bien. Il y a quelques résistants, mais il y a une très grande majorité de la population, en fait, qui utilise les téléphones portables, qui n'arrive plus à s'en séparer. Et cette très grande majorité de la population, ce sont les adultes et ce sont les parents. Donc on a du mal quand même à identifier un problème chez soi. Donc, sans doute qu'il y a quelque chose qui se développe avec ces objets portatifs de l'ordre de l'addiction, sans doute. Mais pour l'instant, ce n'est pas objectivé parce qu'en fait, on est tous dedans. On est tous dedans. Si on vivait dans un monde où l'obligation, c'était de fumer deux paquets de clopes par jour, ça serait normal d'avoir le cancer. Et puis, voilà, on n'arriverait pas à se distinguer. On n'arriverait pas à objectiver. Là, on est un peu dans cette situation. On a... tous des téléphones portables, on s'en sert tous à plein de moments différents. Bon. Ouais. On voit bien le malaise. Hein. Ouais. Ouais. Mais c'est sans doute plus lié à un malaise, c'est-à-dire à avoir du mal à être dans la situation dans laquelle ils sont. C'est-à-dire à ce moment-là, mettons, je suis en réunion, je suis avec des gens, etc. Mais je ne suis pas très à l'aise. Et ça, c'est un peu la porte de sortie, quoi. C'est sans doute un peu comme ça que c'est vécu. Effectivement, c'est révélateur d'un malaise.
Ce que vous dites, c'est vrai, c'est que je pense que beaucoup de monde, maintenant on est comme ça, on a tous un téléphone portable et de plus en plus un téléphone intelligent qui fait un petit bruit quand on reçoit un SMS. Et alors, si la dame dont vous parlez, elle est malade, ben, mon épouse, c'est ça aussi. Elle est beaucoup à la maison. Ma fille est au Canada. À partir du moment là-bas, ils sont levés, ben, elle reçoit beaucoup de SMS. Maintenant, c'est avec Messenger.
Ça n'arrête pas. Et elle entend le truc qui sonne. Moi, elle y va. Elle va voir qu'est-ce qu'elle a dit. Elle répond. Et voilà, je crois que c'est maintenant un phénomène avec ses téléphones.
Mais c'est aussi lié...
Donc là, voilà, c'est...
C'est aussi lié à sa préoccupation d'avoir quelqu'un à l'autre bout. Enfin, vous voyez, quand on a parlé de préoccupation, omnibulation, centration, enfin, il y a quand même des degrés différents. Et quand bien même elle a une réponse immédiate et qu'elle s'en préoccupe et elle s'y intéresse... Ouais,
voilà. Voilà, les téléphones sont comme ça.
Et
ce que je voulais dire, à propos des jeux vidéo, c'est que ceux qui les fabriquent, eh ben en fait, ils font exprès d'être de plus en plus chercher des trucs nouveaux pour accrocher les... Vous parliez tout à l'heure où ça demande une taille, je ne sais pas ce que c'était, mais les petits jeux où il fallait donner à manger à une bête là, au Japon.
Ah, les Tamagotchi.
Les Tamagotchi, alors Anna et d'autres. C'était comme ça, ils avaient ça à un moment donné, 7-8 ans, il fallait donner à manger. Ouais. Alors, mais là, c'est fou, quoi. Alors,
c'est fait à ma gauche, oui, c'est repris dans les jeux. Oui.
Ils rivalisent d'intelligence, et nos petits Français, ils sont partis dans la Silicon Valley, ils inventent des nouveaux trucs tout le temps.
Ah oui, non, mais quand vous écoutez les concepteurs de jeux vidéo, ils vous expliquent hein, très clairement que eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est à multiplier le nombre de joueurs, parce que c'est dans leur intérêt, et à vendre, bien sûr. World of Warcraft, c'est Blizzard. Blizzard, c'est Vivendi Universal. Enfin, on a affaire aux hyper-industries de la culture, quoi, en fait. C'est quand même des gros businessman et voilà. Et bien sûr, oui, les concepteurs des jeux, ce qu'ils veulent, c'est que vous restiez sur leur jeu. Ils vont tout faire pour que vous restiez collés à l'écran. Mais les concepteurs des séries télé, c'est pareil. Tout un tas de programmes aujourd'hui qui nous sont diffusés. Comment ça s'appelle ces trucs ? La télé-réalité. La télé-réalité, ça c'est... Même fonctionnement, quoi. Ah bah, y a pas d'heure. Mais le jeu, là, si vous revenez à la définition même du jeu, avant ça, avant les jeux vidéo, parce que avant les jeux vidéo, il y avait déjà des jeux. Hein, et ben, c'est la définition du jeu. Le jeu en soi, il est séparé en fait de l'existence ordinaire, normale. Et c'est ça qu'on aime dans le jeu, c'est de pouvoir être dans un hors-temps, dans un temps exceptionnel, un temps qui ne soit pas celui de l'horloge sociale, dans un autre espace. Donc tout ça, ça fait partie des caractéristiques du jeu. Et parfois, parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'on se réfugie parfois aussi dans le jeu, pour ne plus penser, pour s'extraire de notre monde, parce que sinon on serait un peu trop compressé. Et ces espaces-là, ils sont nécessaires. Ces espaces un peu intermédiaires où on peut vivre des choses différemment, ils sont aussi nécessaires. L'enjeu, on va dire, c'est qu'ils restent dans des proportions... qui n'envahissent pas en fait le reste de l'existence. Mais il faut leur trouver une place. Enfin, c'est nécessaire à l'être humain d'avoir ces espaces-là intermédiaires. Donc,
Et ça, ce qui montre là, tout ça, c'est la difficulté de la relation parent-enfant aussi, puisque la responsabilité au départ, elle est bien là. On peut pas ignorer tous ces instruments maintenant, mais des fois ça nous arrange bien en tant que parents.
Pendant ce qu'ils sont en train de jouer, ils nous foutent la paix.
Bah oui.
Mais c'est vrai, c'est un combat, et donc c'est très difficile à équilibrer tout ça, et donc à être capable aussi. Faut être encore plus fort, parce que pour proposer autre chose de mieux que ces jeux, faut toujours être plus inventif et tout. C'est épuisant aussi, c'est fatigant, c'est pas évident toujours. Ces temps-là où il pleut tout le temps, toute la journée, allez, va jouer au jeu intérêt, parce que qu'est-ce que je vais lui proposer Bon, on va faire un jeu ensemble, mais ça va durer quoi? Une demi-heure, et puis c'est les parents qui se lassent, là, et tout. C'est tout ça que ça met en cause.
Bien sûr.
Non, je parle d'un week-end plus vieux où on travaille pas en général. Et même là, c'est difficile. C'est ça que ça met en cause. Et des fois, on s'en arrange.
Bah, bien sûr.
On s'en arrange.
Et pourquoi pas?
Oui, aussi.
Aussi.
Et c'est comme tout. Abuse de tout, n'abuse de rien.
C'est ça.
Et là, c'est toujours dur à trouver.
Et on tâtonne. Et on tâtonne parce qu'on n'a vraiment pas suffisamment de recul.
Puis il y a quand même, c'est vrai qu'il y a quand même aussi, pour tous les phénomènes, c'est un peu pareil. Il y a les autres aussi, il y a les copains. Quand vous dites, est-ce que c'est vrai que les copains jouent tard le soir? Oui, c'est vrai.
Oui, sans doute.
Et on a lutté aussi contre les autres des fois, parce que je sais que le mien, quand il joue le soir, c'est toujours moi qui lui dis arrête. Le copain, lui, visiblement, les parents, ils ne sont pas là et tout. C'est toujours le mien qui arrête en premier. Donc, il y a encore ça. Ouais, mais lui, il n'arrête pas. Il y a plein de choses qui nous compliquent la tâche.
Oui.
Puisque ça représente déjà au départ, c'est sûr. On est dans la société de consommation. Tout est fait quand même pour ça.
Ouais.
Et comme tout le reste, on s'en fout des conséquences. Le principal, c'est que l'argent rentre. On oublie ça aussi, c'est que ça coûte cher tout ça. Régulièrement, il faut remettre au panier parce qu'il y a un nouveau jeu, il y a
ou parce qu'il y a des ajouts de jeu aussi.
Il y a quand même un minimum d'argent aussi à mettre.
Enfin, les joueurs vous diraient que c'est beaucoup plus économique que d'aller au cinéma, par exemple.
Ouais.
Oui,
par rapport au temps.
C'est... Mais vous savez que dans un jeu comme World of Warcraft, notamment en Chine, en fait, ils ont mis ça en place il y a déjà quelques années parce que les Chinois sont très joueurs. Et il y avait la moitié des joueurs de ce jeu, donc à un moment donné 11 millions de joueurs quand même dans le monde entier pour ce jeu, World of Warcraft, la moitié était chinois. Et donc le gouvernement s'est inquiété parce que 5 millions de gens qui jouent à un jeu vidéo sans fin... Ça fait quand même beaucoup de monde qui n'est pas au boulot, etc. Et donc, dans la version World of Warcraft, en tous les cas en Chine, vous perdez des points si vous ne vous arrêtez pas de jouer. Et vous gagnez des points, en quelque sorte, en étant au repos, en mettant votre personnage au repos. Ils ont inversé, effectivement, pour limiter... Voilà.
C'est néfaste pour le sommeil.
Oui.
Donc,
être
longtemps dans la journée ou même les regarder tard, ça empêche les enfants en particulier de se reposer.
Il vaut mieux éteindre l'écran. L'écran. Mais alors, il y a différents écrans. Cet écran-là, ce n'est pas cet écran-là. C'est-à-dire, cet écran-là, c'est de la lumière projetée sur un écran qui vous revient. Donc, ça n'a pas le même impact sur le cerveau qu'un écran comme ça, l'écran d'ordinateur, où vous avez directement la lumière qui impacte sur votre cerveau. Et là, effectivement, ça tient éveillé. Il vaut mieux s'arrêter une demi-heure. Enfin, il faut couper l'écran une demi-heure avant d'aller se coucher. Sinon, ça ne va pas être facile de trouver le sommeil, forcément. Ça stimule un peu tout ça là-haut. Et pour s'endormir, on a besoin de faire en sorte que les stimulations soient au plus bas pour pouvoir s'apaiser et aller vers le sommeil.
Bien, on va s'arrêter là, je pense. Je vous remercie aussi pour votre attention et pour vos questions.
dramatisé pas mal. Finalement, on s'est retrouvé plus dans les conférences parents que jeunes. J'ai essayé de lutter plus ou moins pour les jeunes, mais je savais pas comment ramener sur le peu de jeunes qui avaient ouais. Parce qu'on a été encore appelé à des phénomènes de captation par l'entourage.
Est-ce qu'on peut avoir les mêmes, à peu près les mêmes symptômes, mais pour des livres?
Ah, ça s'appelle le bovarisme.
Ça existe? Enfin, c'est quoi?
Non. En fait,